Alors bonjour à toutes. Ça va? Bon. Alors, c'est marqué dans la parashat Lech Lecha, qu'on vient de lire, une notion qui est très très importante, surtout pour avoir un peu de silence pour le cours, parce qu'il est marqué « Vayomer Hashem el Avram ». Il a dit à Hashem à Avram « Lech Lecha miartzecha ». Alors si on traduit littéralement, a priori, ça veut dire va, « Va de ta terre, va-t'en de ta terre ». « Umimolot techa » de ton pays de naissance, ou mibet avicha de la maison de ton père, et la reste achera reka vers la terre que je te montrerai. Bon, alors c'est il demande les commentaires, pourquoi? C'est toujours comme ça ou c'est juste parce que je suis là? Les filles là-bas, ça m'intéresse que vous soyez là. Venez, 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 venez. Venez le petit groupe là, les mangeuses de pizza, juste là. Venez, venez. Approchez-vous, ça me dérange. Là. Encore. Non, pas le poteau. Non, le poteau, ça m'intéresse pas. Là, il y a 6 places. Super. Merci encore. Venez, approchez-vous. Je suis marié, n'ayez pas peur. Là. Ben, où elles sont? Venez. Pourquoi il faut que je vous prenne par la main? Là, il y a 6 places. Approchez-vous. Vous aussi. Là. N'ayez pas peur. C'est dommage sur le temps de la conférence. Il m'en reste plus que 3 là-bas, c'est bon. Venez.
Allez, voilà.
Non, asseyez-vous. Merci beaucoup, Chavak, vraiment. Donc on a dit, premièrement, pourquoi est-ce que ce passage qui commence par Vayomer? Vayomer, la Torah aurait pu dire Vaydaber. Ouais, la Torah a dit Vayomer. Alors le bas, la Torah, il me dit comme ça, Patach Ba'amira. Pourquoi il a commencé avec un Lachon de Amira, de Vayomer? Mais Lachon chez Nivra Olam. Dans le langage dans lequel le monde a été créé, chez Be'asaram Amarot Nivra Olam, parce que le monde a été créé par 10 paroles, Ve'kulolo Nivra et la Bisrut Avram. Et toute la création du monde, elle n'est justifiée que par Avram Avinu. Ça veut dire qu'ici, il y a un rapport entre la création du monde et Avram. A priori, Avram, c'est une personne. Maintenant, depuis que le monde a été créé, il y a déjà eu des millions de personnes. Maintenant, juste, on s'intéresse à Avram, et on dit qu'il y a un rapport entre la création du monde, parce que Dieu, il a créé le monde en disant Vayomer 10 fois. Et Hachem, il a dit Avram, Vayomer Avram. Alors, quel rapport? Après, c'est marqué, dans Bereshit là-bas, à la fin de la création, c'est marqué Ele Toldot Hashamayim Va'aretz. Donc, voici tout le défilement de la création du ciel et de la terre. Be'ibar Am, Be'yom Asot Hashem Elokim Shamayim Va'aretz. Il dit, quand il a créé Hachem, dans le jour où il avait créé, Asot Hashem, le jour où Hachem a fait la terre et le ciel. Alors, les Chachamim, ils ont dit Be'ibar Am, ça veut dire. Lors de la création, mais dit Al Tikre Be'ibar'am et la Be'abraham. Sous-entendu que, là encore une fois, le nom d'Abraham il est inscrit à l'intérieur de la création. Essayez de comprendre, quand Hachem met en place la création, ça veut dire qu'il y a des milliards d'hommes qui vont être créés, qui vont venir. On a déjà expliqué dans ce cours, mais bon, je ne sais pas parce que je vois beaucoup de nouvelles, que quand Hachem il a dit Vayehi, que le monde soit, il n'a pas seulement créé la matière de base à partir de laquelle tout va se faire. Même les goïms ils disent rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que la masse des molécules qui est nécessaire pour créer le monde, elle est déjà préétablie. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement que la matière de base, on va dire, elle existe. C'est que même les combinaisons qui seront nécessaires pour créer toutes les situations et toutes les personnes, elle est déjà préétablie. Ça veut dire que la trajectoire de la particule depuis 6000 ans, elle est préétablie. Alors quand vous acceptez, vous, que rien ne se perd, tout se transforme, ça veut dire que ton corps, il était déjà écrit là-bas il y a 6000 ans. Et que cette synagogue, elle était déjà inscrite il y a 6000 ans. Seulement, elle était écrite, on va dire, de manière électronique, elle n'était pas encore réalisée. Après, dans la trajectoire des transformations, elle vient, la réalité, elle est là devant toi. M'as-tu suivi? Donc le corps de ton copain aussi, il était déjà écrit il y a 6000 ans. Ça lui fait un petit, ça le rend vieux, mais bon. Il dit que c'est marqué ici que Avraham Avinu, lui-même, il arrive à justifier la création du monde. Quel rapport entre Avraham et la création? Encore plus, le Pirkei Avot, c'est marqué Asara Nisyonot Nitnase Avraham Avinu. Avraham, il a eu 10 épreuves. Vers Aman Bekulam, et dans toutes, il a tenu. Léodia Kamar Ribato chez Avraham Avinu, pour montrer l'amour qu'Adjourou il avait pour Avraham. Dis, non, on ne comprend pas, c'est bizarre. Le monde, il a été créé par 10 paroles. 10 fois, Dieu, il a dit Vayomer. Avraham, il est passé par 10 épreuves. Donc vraiment, on est en train de parler d'un parallèle entre Avraham et la création. Maintenant, on sait qu'un homme, il s'appelle Olam Malé. Un homme, il s'appelle un monde complet. Maintenant, quand tu regardes la complexité de la création du monde, et tu regardes la complexité d'un homme, tu sais pas, c'est pas équivalent. Et d'un autre côté, il y a tellement de facettes, il y a tellement de changements. Par exemple, moi, j'ai une petite expérience de quelques dizaines de milliers de personnes, d'accord ? J'ai pris l'habitude de ne pas faire des classes. Je ne dis pas les gros, les maigres, les religieux, les pas-religieux, les intellos, les brels. En vérité, ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit que chaque personne, c'est un mélange extrêmement nuancé. Et il faut laisser la personne venir elle-même. Maintenant, c'est vrai que c'est plus rassurant. Et puis en plus, on peut faire un métier de ça. On peut être chasseur de tête, psychologue. Pour créer des classes, pour mettre les gens. C'est vrai que c'est plus simple de les classer dans un groupe. Mais d'un autre côté, on perd une chose extraordinaire. On perd la nuance, on perd la différence. D'essayer de voir qu'est-ce qu'elle vaut la personne. Et plus on rentre dans la personne, et plus on pose des questions à la personne, et plus on se rend compte vraiment que quand les Chachamim, ils ont dit que chaque personne c'est un monde, ça veut dire que c'est tellement complexe. Comme si tu dis en France, dans le monde, il y a l'Amazonie, et puis il y a la banquise, et puis il y a les pucerons sur les roses, et il y a les manchots là-bas en Alaska. Ça n'a aucun rapport. Ben, c'est exactement pareil une personne. Tu vois des extrêmes dans ce comportement qui peut être super gentil ou super méchant, complètement parano ou alors hyper ouvert, complètement mytho à raconter à pleurer qu'il va absolument faire teshuva, ouais, et quitter son père, sortir de la yeshiva et prendre du shit. Je comprends pas, t'es qui toi? T'es celui qui pleure, qui regrette de tromper des filles en disant qu'il les aime, ouais, en faisant soi-disant le religieux qui veut aider la fille à faire teshuva, ou alors le type qui prend du shit, t'es qui toi? Il y a des gens comme ça. Double visage. Très difficile à savoir, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprends que chaque personne, en fin de compte, elle est complexe. Maintenant, complexe jusqu'à quel point? Alors la Torah, elle te dit, elle est complexe comme un monde. Ah ouais, tu dis, c'est beaucoup. Moi, regarde une petite expérience que j'ai vue dans le Shalom Bayit. Moi, j'ai pas de laboratoire de psychiatrie, mais avec le Shalom Bayit, j'ai beaucoup appris, ouais. Je vois des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, ils se connaissent pas encore. Combien de temps il faut pour visiter l'Amazonie? Ah, 5 ans, c'est énorme. L'autre, ça fait 30 ans qu'il est marié avec un Amazon, il n'a pas encore compris. Il ne la connaît pas. Moi, je vois, les gens, ils sont devant moi. Je dis, madame, qu'est-ce que pense votre mari de ça? J'en sais rien, demandez-lui. Ah bon? Monsieur, comment est-ce que vous ressentez ça? Ben, écoutez, je ne suis pas à sa place. Comment votre femme, elle ressent ça? Je ne suis pas à sa place. C'est-à-dire qu'ils font des enfants ensemble, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils ne se connaissent pas. Tu te demandes comment ils sont nés, les enfants? Par Wi-Fi ou je ne sais pas. Ouais. Mais c'est extrêmement grave. Parce que si déjà les gens que tu côtoies et avec qui tu es censé faire ta vie, tu les connais pas, alors imagine-toi qu'est-ce que tu sais de tes amis, et qu'est-ce que tu sais même de tes parents, et qu'est-ce que tu sais de tes professeurs et de tes élèves, qu'est-ce que tu sais au fond? Tu dis, c'est un monde. Ici, la Torah, elle a mis en parallèle Avraham Avinu, la vie d'Avraham, les 10 épreuves d'Avraham, avec les 10 paroles de la création du monde. Ça veut dire que c'est aussi complexe de fabriquer un homme que de fabriquer le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Après, c'est marqué dans le Midrash Rabba, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Nisayon Arishon, Venisayon Acharon, Eno, Menaselecha, Ela Belashonze. Hachem, il a dit à Avraham, la première épreuve et la dernière épreuve, je vais te la donner avec le même langage. Que quoi? La première épreuve, c'était quoi? Quitte ton pays. Lech Lecha Miartzecha. Il a dit ce langage, Lech Lecha Miartzecha. La dernière épreuve, c'est quoi? C'était la Akeda. C'était le sacrifice. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lech Lecha El Eretz Amoria. Va-t'en vers la terre de Moria pour faire le sacrifice. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a commencé par l'Ech Lecha? On a terminé par l'Ech Lecha. Comment ça fonctionne? Quel rapport ça a les uns avec les autres? Alors, il faut savoir que c'est marqué dans le Zohar qu'en fait, Avraham Avinu, le visage d'Avraham Avinu, il est dans le ciel. Alors, bon, c'est une notion qui est un peu compliquée. Il s'appelle Avraham Deleila, Avraham Deletata. Il y a le Avraham d'en haut, l'Avraham d'en bas. Ça veut dire que quand on a dit qu'Avraham, Be'ibar'am, puisqu'on est dans un passage qui parle de la création du monde, on vient, on nous dit Be'ibar'am, sous-entendu que Hachem, dans son plan, bien qu'il y a des milliards d'individus qui vont naître, il a dans la tête un objectif qui s'appelle Avraham. Donc le Avraham, il est inscrit dans le ciel. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut que cet Avraham, là, qui est sur la terre, il devient le Avraham qui est dans le ciel. Comment il va faire pour passer de l'un à l'autre? 10 nitionotes, 10 épreuves. Bon, ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Mais c'est pas grave, on peut reposer la question. Comment une élève de première, elle devient une élève de terminale? Je dis pas parce qu'elle était à l'école. Non, le radiateur aussi, il était à l'école. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle a écouté les cours. Non, ça c'est être copié-collé. Ah, je dis parce qu'elle a fait l'exercice. Ah, c'est un peu mieux déjà. Mais alors, quand est-ce qu'elle est devenue une élève de terminale? Tu dis, est-ce que c'est le jour du conseil de classe? C'est le 27 juin. Quand est-ce? En fait, pendant toute l'année, elle est devenue. Parce qu'elle apprend des choses. Après, elle fait les exercices. Après, elle fait les interros. Maintenant, l'interro, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert à exprimer, à exister ce qu'elle est devenue grâce à l'interro. Le mieux, c'est le bac. L'examen, c'est quoi l'examen? L'examen, même si vous lisez les textes du ministère de l'éducation, l'examen sert à vérifier que l'enfant a atteint le degré de maturité qu'ont pu lui apporter les connaissances. Ça veut dire que dans la relation que tu entretiens avec les connaissances, on veut savoir non pas ce que tu sais, mais on veut savoir ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. C'est pour ça que quand vous arrivez au bac ou au BTS, on vous donne une feuille blanche et un stylo. Tu dis, mais c'est pas normal. Où sont mes copines? Où est l'ambiance? Où est le professeur? Où sont mes livres? Où sont mes antisèches? Où est l'eau? Pourquoi? Tu dis, mais c'est pas bien. Donnez-moi les livres, donnez-moi les trucs. Bon, c'est vrai, j'ai pas beaucoup bossé. Peut-être je suis pas clair. Peut-être il manque un tout petit élément. Peut-être je manque de confiance en moi. Peut-être que je connais tout. Mais j'ai le malaise de la feuille blanche. Alors je vais rien faire. Non, non, non. Tu te débrouilles. Pourquoi? Encore une fois, je répète, parce qu'on s'en fiche complètement de ce que t'as appris. Tu dis, mais je connais tout par cœur, je connais le Pokupoka par cœur. On s'en fiche de ce que t'as appris. On veut pas savoir ce que tu sais, on veut savoir ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu grâce à. Ça veut dire le niveau de maturité que tu as atteint grâce. Donc l'examen, c'est comme exister. Exister, c'est être à l'extérieur. Exam, c'est faire sortir ton âme. Exam. Fais-nous sortir ton âme. Bon, je rigole, bien sûr, au niveau de la langue, c'est faux, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas fait d'études, donc ça me dérange pas. Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, non, des bêtises dans la pensée goy, c'est pas grave, parce que eux-mêmes, tous les 10 ans, ils pensent qu'ils ont le type d'avant a dit des bêtises, donc de toute façon, je peux les dire à l'avance, parce que de toute façon, ils vont les dire dans 10 ans. Et c'est quoi la logique? C'est que de la même manière que la création du monde, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il avait un plan. Vous savez très bien que Dieu, il a écrit d'abord la Torah, et après, il a créé le monde. Donc la Torah, c'est le plan du monde. Maintenant, on va dire le monde physique, c'est le monde réalisé, mais le monde d'avant, c'est le monde électronique. On va dire le monde électronique, c'est le schéma du monde. Maintenant, Avraham Avinu aussi, c'est un être électronique, c'est-à-dire la personne qui va devenir. Comme vous-même, vous êtes des êtres électroniques. Votre avenir, il est encore que électronique, mais votre personne, elle est physique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous allez devenir les personnes que vous êtes censé être? Alors, le bon Dieu, pour ça, il nous a donné ce qu'on appelle des décapsuleurs. Les professeurs, ils vont t'aider à épanouir ton niveau de maturité dans l'école. Ton mari, il va t'aider à épanouir ton niveau de capacité dans tes nerfs. Tes enfants, ils vont donner tes niveaux de capacité de comprendre, en fait, qui est l'enfant. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi? Ouais. Ta voisine qui va faire du bruit à 4h du matin, elle va... Chacun, il va être là pour décapsuler une facette de nous-mêmes. Comment on appelle le passage du potentiel au réel? Quel est l'outil? Ils appellent le Nisayon. Nisayon, en hébreu, ça veut dire une épreuve. Ouais. C'est quoi une épreuve? Pourquoi on dit l'épreuve? Pourquoi le mot preuve en français, c'est le même mot que le mot épreuve? Parce que l'épreuve de la vie, ça s'écrit au pluriel, c'est l'épreuve de la vie. Bah oui. Comment je sais que tu es en vie? Parce que tu assumes tes épreuves. Donc la preuve, c'est l'épreuve. Tu dis, ah, moi les épreuves, ça m'intéresse pas. C'est trop pour moi, ça me prend la tête, demande à ma mère, c'est pas moi, c'est de ta faute, de toute façon c'est toi qui es fou. À chaque fois que tu refuses d'exister, tu te conduis comme une gamine. Moi, mais j'ai des raisons. Tu es une gamine avec des raisons. C'est bien. Ce qu'on appelle un diagnostic. Presque un symptôme. On s'en fiche de tes raisons. On veut des solutions. On veut que tu grandisses. On veut que tu évolues. On veut que tu arrêtes de jouer avec ton téléphone. C'est ça qu'on veut. C'est facile à comprendre, non? Après, au BTS, il y a un temps pour tout, non? Il y a bien un moment où quand on écoute quelqu'un qui quelque chose qui nous concerne, on doit l'écouter. Sinon, le mot concerné, il faut l'écrire en deux mots et on est cerné. Voilà, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est énorme, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Avinu, Lech Lecha. Maintenant, comment on va traduire Lech Lecha? Maintenant, on a un problème. Lech Lecha, a priori, ça veut dire va-t'en, d'accord? Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Ça, vous l'avez entendu dans les cours, va pour toi. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous avez peut-être entendu dans les cours? Je ne sais pas. Mais ça demande à réfléchir. Moi aussi, je l'ai entendu il y a une vingtaine d'années, mais je viens de comprendre. Lech Lecha, ça ne veut pas dire va pour toi aussi, ça veut dire aussi va vers toi. Ah, tu dis, ça veut dire quoi? Va vers toi. Ben, je ne vais pas aller vers moi. Parce que j'y suis déjà chez moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand tu vis, l'autre, il te renvoie quelque chose. Ouais. Je vous ai dit, la vie, c'est quoi? On marche dans la rue. Vous savez comment ça se passe? Toutes les jeunes filles du monde, quand elles passent devant une vitrine et qu'il y a leur reflet dedans, qu'est-ce qu'elles font? C'est obligatoire. Elles se regardent. Quand elles sortent... bon, les garçons, un petit peu aussi. C'est normal aujourd'hui, puisque les garçons... Bon, alors... Mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon reflet m'intéresse. Maintenant, je vous donne une idée. Un miroir, ça déforme. Ouais. Vous savez, il y a des miroirs qui grossissent, des miroirs qui maigrissent. Vous connaissez ce problème? C'est un peu comme les balances. Il y a des balances, tu as la haine contre elles. Et il y en a, tu les adores. Il y a des balances qui te jugent les caves de croûte, il y en a les caves froides. La balance de tête chez ta mère, elle perd 2 kilos. La balance du docteur, elle prend 2 kilos. Comme ça, tu as une relation d'intimité avec ta balance qui est très bizarre. Bon, il y en a même qui ont plusieurs. Genre, une quand elle a le moral, une quand elle n'a pas le moral. C'est très bizarre la balance. C'est un phénomène psychiatrique à analyser en zoologie qui est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que de la même manière, une personne, elle se regarde dans la glace. Alors, je vous donne un truc. Chaque personne que tu rencontres dans ta vie, c'est un miroir. Maintenant, dans le miroir, il n'y a pas toi. On est bien clair. Quand vous êtes devant le miroir, il y a vous et il y a le miroir. Ça va jusque-là ou non? Jamais ça vous arrive, en regardant le miroir, de dire « Oh, il y a quelqu'un !» Tu dis « Non, c'est que mon reflet. C'est clair pour vous? Oui ou non ?» Non, je ne sais pas, je vous demande. Oui, non?
Oui.
Non, ne dites pas oui, parce que des fois, on s'identifie à la personne qui est en face de nous. Alors, ce n'est pas un reflet, c'est toi. Je l'aime plus que moi. Alors c'est toi ou c'est lui? C'est compliqué la vie. Donc, je te donne une idée. Le miroir, il est déformant. Tu sais pourquoi? Parce que le miroir, c'est les autres. Maintenant, chaque personne, elle a sa personnalité. Donc, elle te regarde avec ses yeux à elle. Donc, toi, ce que tu retrouves de toi chez elle, c'est qu'un reflet de toi. C'est très dur d'avoir un reflet objectif de toi chez l'autre, puisque l'autre, il te regarde à travers lui. Ou à travers elle. Il n'y a pas que des garçons dans le monde. C'est pas grave. Ça veut dire que si toi, tu n'arrives pas à vivre autrement que dans le regard des autres, t'es pas né. Tu n'es pas né. Vous savez que le nez chez nous est très important. Ouais. Tu n'es pas né. Alors les gens disent, écoutez, ça ne veut rien dire. Alors les psychiatres, ils disent qu'à partir de 3 ans, un homme, il vit dans le regard des autres. Il a 33 ans. Ou la 40. Ou la 60. Jusqu'à quand tu vas travailler pour être autonome, de ne plus vivre dans le regard? C'est pas parce qu'on me regarde. C'est pas parce qu'on me juge. C'est pas parce qu'on pense que... C'est pas parce que ça me fait plaisir et c'est pas parce que ça me dérange. C'est parce que je suis moi-même. L'air, les rats. L'air, les rats. Ça prend du temps de se connaître, de savoir ce qu'on veut, de ce qu'on pense. Est-ce qu'on est vraiment content? Est-ce que ça te fait vraiment rigoler? Ça te fait rigoler? Est-ce que tu voulais le dire? T'es sûr? Non, parce qu'il va partir là. Tu veux pas t'excuser? Ouais, il me saoule, il me fait du mal. Non, il va partir là. Tu veux t'excuser ou non? C'est maintenant qu'il faut parler. Ouais, mais... Eh ben, il est parti. Voilà, ça va. Pourquoi il est parti? Mais il sait bien que je l'adore. Mais JH2, c'est de la chimie, ça veut dire jeune Hamara au carré. Ouais. Mais j'étais dépassé, c'était mon amour propre, c'était difficile. Mais quand on sera devant le juge, je lui dirai que je l'aime. Tu oublies que la Jnouna de voisine, ou là ta belle-sœur, elle l'apprécie beaucoup. C'est ça la vie. La vie, c'est les décalages. Des fois, j'ai des couples qui viennent en Shalom Bayit, ils me racontent leur vie, ça prend une heure et demie, et puis après, je leur dis, c'est très simple, votre vie, c'est une série de rendez-vous manqués. Quand toi, tu faisais des efforts, l'autre, tu faisais la tête. Après, quand tu as voulu t'arranger, l'autre, tu as dit, je vais te faire payer pour ce que tu m'as fait. Après, quand elle a dit, bon, ça suffit, là, c'est payé, elle s'est dit, excuse-moi, mais je me suis fatigué, j'ai été voir ailleurs. Elle dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Je t'ai pas trompé, de toute façon, tu n'étais pas avec moi. Oh, mais tu sais bien que je t'aime. Dis, mais tu me le dis pas. Oh! Une série de rendez-vous manqués. Maintenant, moi, je vous donne l'exemple du mariage, parce que ça vous touche. Je vous dis, oh, il a raison, on dirait mes parents. D'accord, donc c'est normal. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi votre histoire à vous. Et puis, ce n'est pas un rendez-vous que manquer que avec la personne qu'on aime. Ça peut être avec ses enfants. Après qu'il est parti, tu dis, j'aurais dû lui parler. Ça peut être avec la Torah. Tu dis, mais je sais que c'est vrai, mais je n'arrive pas à me retenir de manger du cochon. C'est comme tu veux. Le magasin, il est dans un centre commercial. Je suis obligé d'ouvrir Shabbat. Mais tu savais bien que ça ouvrait Shabbat. Oui. Mais je pensais que je pourrais m'arranger. En plus, il est ouvert que le samedi, ton magasin. Ça va être dur de t'arranger. Pourquoi il y a cette logique-là qu'une personne, elle n'est pas en cohérence avec sa réalité? Et je vous ai déjà dit le problème. Pour les anciennes, c'est facile, mais pour les nouvelles, ça va être dur. C'est que des fois, au début, on est incohérent. Et puis après, on devient cohérent avec son incohérence. Comment tu veux que je fasse autrement? Ben, c'est la vie. Ben, c'est ma réalité. Elle est comme elle est. Comment elle est comme elle est? Mais enfin, si Dieu pose une question, t'as qu'à donner la réponse. Non. Non. C'est marqué ici. L'air, l'écha. L'air, l'écha. Alors moi, je me demande, quand on doit aller vers soi, dans quelle direction il faut aller? Je dis, va-t'en! Où ça? Vers toi. Alors regardez, on va commencer par la logique. Parce que ce que vous savez déjà, peut-être que ça va nous faire comprendre ce qu'on ne sait pas. Et puis après, peut-être que vous allez comprendre que même ce qu'on sait, au fond, on ne le sait pas. C'est pas grave, ça vient petit à petit. C'est marqué dans Rashi, l'Ech Lecha, il dit Rashi. C'est quoi l'Ech Lecha, va, on a dit, pour toi. L'Echa, a priori, c'est pour toi. Il dit Rashi, l'Ana Atecha ou l'Etovatecha. Pour ton profit et pour ton bien. Vesham et Esecha l'Egoy Gadol. Vekan i Ata Zoche l'Ebanim. Vous savez qu'il était stérile, Abraham Avinu. Vous savez qu'il n'avait pas d'enfant, vous êtes au courant, oui. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui dit, va-t'en. Va-t'en, sous-entendu, quand tu vas changer d'endroit, tu auras des enfants. Vous connaissez ce principe, Shoné Makom, Shoné Mazal. C'est pour ça que vous déménagez tous les trois jours, dans l'espoir de... Donc, d'accord. D'un autre côté, c'est vrai. Et deuxièmement, il dit Rashi, Veod, Sheodia, Tivacha Baolam. Et il dit en plus que je vais faire connaître ta nature dans le monde. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Hachem, il a dit, Lech Lecha, va pour toi. Sous-entendu, c'est bon pour toi de partir, parce que grâce au fait que tu vas partir, tu vas changer ton mazal, que de stérile, tu vas devenir père de famille. Et d'un autre côté, d'une personne inconnue, tu vas devenir une personne connue. C'est-à-dire que ta nature, elle va se développer dans le monde. Tu vas exister. On a expliqué déjà plusieurs fois que la personnalité, c'est quoi la personnalité? C'est l'empreinte de ta personne dans la réalité. Maintenant, pourquoi tu as quelque chose de propre à toi? Pour ça, quand on t'écoute, on sait que c'est toi. Quand on voit tes vêtements, on sait que c'est toi. Quand on voit ta chambre, on sait que c'est toi. Quand on voit ton écriture, on sait que c'est toi. C'est ta personnalité. Maintenant, pour avoir une personnalité, c'est-à-dire une personne qui se réalise dans la réalité, il faut déjà avoir une personne. Parce qu'une personne peut être aussi personne. Vous comprenez ça? Donc maintenant, quand moi j'ai ma personne, déjà je la connais, je la respecte, je la valorise déjà à l'intérieur, et ensuite je la projette à l'extérieur. On appelle ça en français le respect de soi, c'est-à-dire le pouvoir de se donner le droit d'exister. Donc quand je me respecte, je me pousse à exister. Donc l'empreinte de ma personne dans la réalité s'appelle la personnalité. Facile à comprendre. Donc une personne qui n'a pas de personnalité, c'est une personne qui à l'extérieur ne se réalise pas et à l'intérieur qui n'est pas construite. C'est pour ça souvent qu'il y a des gens qui vont prendre sa place. Mais comment tu te fais manipuler? Mais comment tu te fais avoir? Mais à chaque fois tu te fais, l'autre il dit il t'adore, l'autre il dit il va trouver un boulot, l'autre il dit je te déclarerai plus tard. Mais pourquoi tu te fais avoir à chaque fois? Eh ben moi je fais confiance et je crois que les gens ils sont honnêtes et puis moi je suis une fille gentille, je suis pas une fille tordue qui fait des comptes et des trucs, mais moi j'y vais cool et je... Si c'était ta fille, ah ma fille je leur ai dit, le laisse pas faire, demande le contrat, te prends pas la tête, c'est un gigolo. Alors quelle différence entre ta fille et toi? Ben, c'est très simple, c'est que ta fille elle est extérieure à toi alors que toi t'es intérieur. Alors pourquoi t'as vu tout de suite que pour ta fille c'était un gigolo et pour toi il a fallu que tu tombes amoureuse, que tu fasses des bêtises, que t'ailles très loin, que tu mettes les choses à plat, on dit en français, ouais, et qu'après tu dis il est parti avec ma sœur alors qu'il m'avait dit qu'il m'aimait. Mais mémé, il écrit M-E accent, M-E accent. T'es déjà trop vieille pour lui. Lui, il aime bien les filles de 13 ans, toi. Toi, t'es déjà trop intelligente, tu réfléchis trop. Ça veut dire quoi, la logique? Ça veut dire qu'une personne, elle se fait avoir. Tu sais pourquoi elle se fait avoir? Parce que quand on l'appelle, il n'y a personne qui répond. C'est-à-dire que des fois, on a tellement besoin de l'autre pour exister, qu'on dit, c'est pas grave si j'existe pas, puisque lui me dit que j'existe. Mais enfin... Il n'y a que les chiens qui viennent quand on les siffle. Il faut se décider. Quel est ton prénom? Chut. Oh, c'est joli, ça. Bon, des fois, c'est une sonnerie de portable. Dès que c'est... Oh, c'est lui! C'est lui! Depuis Natania, depuis 6 mois, je l'attends. Il me rappelle. Mais qui c'est qui t'appelle? Il te rappelle. Maintenant qu'il a fait tout le tour de toutes les khalwas de la Terre, il revient chez toi. C'est marqué ici, Rabotai. Quelle est ta valeur? Est-ce que tu es une personne de valeur? Une personne de valeur, on ne peut pas la manipuler. On ne peut pas la balader. On ne peut pas la bananer. Est-ce qu'on peut déplacer un immeuble? Non. Mais est-ce qu'on peut déplacer un duvet de poulet? C'est le duvet, c'est léger. Le duvet de poulet, c'est hyper léger. Alors comment ça se fait que toi, tu fais un duvet de poulet. Tu dis, faut pas exagérer. Bon, t'es un duvet d'autruche. T'es un peu plus lourd. Pas beaucoup. Et ça vient de quoi? Parce que t'as pas de personne. T'as pas le respect de toi-même. Mais qu'est-ce que je fais avec un brel comme ça? Mais il me dit qu'il m'aime. Mais il est brel. Alors épouse le magnétophone. Regarde, il t'adore. Lui, il répète une phrase qu'il a lue quelque part. Sur la figure de ton père. Le Facebook. Ouais. Il s'est marqué ici, ouais. Il comprend rien. Elle dit, oh, t'es une fille super, t'es extraordinaire, tu seras la mère de mes enfants, la femme de ma vie, t'es la lumière de mon matin. Tu dis, oh, où t'as trouvé cette phrase? Ben, je l'ai lue dans 20 minutes. Ah, oh, excuse-moi. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça va? Je continue ou je... ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que quand on a dit à Avraham Avinu, parce que vous savez, il va loin, le Balatourim, il dit l'ech lecha, vous savez, l'ech, vous calculez, l'ech, c'est lamed kaf, ça fait 50, lecha, ça fait 50, ça fait 100. L'ech lecha, c'est 100. Ça veut dire quoi? Il a dit à 100 ans, tu auras tes enfants. Quel âge il avait Avraham Avinu au moment où il est sorti de Ur-Kazim? 75 ans. Il lui a dit l'ech lecha, ça veut dire il te reste 100 ans à vivre. L'ech lecha, ça veut dire à 100 ans, tu auras ton enfant. L'ech lecha, ils disent le commentaire, le Zohar, il dit c'est quoi l'ech lecha? C'est 100. Les 100 brachot, ouais, qu'on fait par jour. Alors, c'est quoi les 100 brachot? C'est quoi une bracha? Les gens croient, une bracha. Qu'est-ce que ça dit là? T'as vomi? Non, j'ai fait une bracha. C'est quoi une bracha? Vous voyez, imagine ces plafonds. Imagine ce plafond, il est en carton. Et au-dessus, il y a des tonnes et des tonnes de diamants. À peu près 174 milliards de carats. Tu mets, il est trop haut, j'y arrive pas. Alors, c'est très simple, je vais prendre un tuyau, d'accord? Je vais le planter dans le plafond, qui est en carton, et les diamants, ils vont couler dans le tuyau. Ça va pour vous? Voilà. Nous, la bracha, la kedusha, le shalom, c'est pas nous qui le fabriquons. Pas du tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tuyau pour l'obtenir. Donc toi, tu fais la mitzvah, tu la plantes dans le ciel, et c'est par le chemin de la mitzvah, et vient la kedusha. Dans tout, c'est pareil. Toi, t'es gentil avec ton mari, et Dieu, il envoie le shalom. Toi, tu éduques tes enfants, et Dieu, il en fait des gens bien. Toi, tu ouvres ton magasin, et Dieu, il envoie les clients. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Toi, tu ouvres. Toi, tu prends les médicaments, et Dieu, il envoie la santé. Donc, en vérité, nous n'obtenons jamais de résultat. Mais nous faisons l'effort pour l'obtenir. Ça va? Ça s'appelle Aïmouna, le Bitachon. Donc, si c'est comme ça, ça va? J'ai cité quelqu'un dans le cours ou quoi? Bon, alors... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, l'ech lecha, on a dit c'est quoi l'ehana atecha? C'est pour ton bien, pour toi. Donc ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il lui a dit, en fin de compte, va vers ton mazal dans un langage de vas-y? Alors nous, encore une fois, gentiment, pour pas vous choquer intellectuellement, on a dit, eh ben parce que celui qui change d'endroit, il change de mazal. Mais moi je pose une question, idiote, hein. Le bon Dieu, il a besoin que tu fasses 20 km pour que ton mazal change. Il a besoin que tu ailles au Canada pour rencontrer ton khatan. Pourquoi il ne peut pas l'amener ici en stage pendant une semaine et qu'il passe Shabbat chez ta belle-sœur? Il ne peut pas faire ça. Il peut tout faire. Alors tu dis, ouais, mais le rabbi m'a dit que mon mazal, il est au Canada. Donc en attendant, tout est gelé pour moi. Ah ouais, il fait super fort là-bas. Ouais. Donc la logique, c'est quoi? La logique, c'est simple. C'est qu'en vérité, le mazal, il est en toi. Maintenant, ça veut dire quoi? Il faut changer. Il faut aller. C'est quoi aller? Aller, c'est aller en toi. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Dans la trajectoire de ta vie, ouais, sache que la naissance du quatrième, elle est déjà dans ta trajectoire. La rencontre avec ton mari, elle est déjà dans la trajectoire. L'école de ton fils dans lequel il va être renvoyé, qui va lui permettre d'aller dans la bonne école, bien que ça va te faire souffrir qu'il est renvoyé, mais qu'après tu vas dire, Mina Shamaim, c'est extraordinaire, il est tombé dans la bonne école. Elle est déjà cette école, elle existe déjà cette école. Ça veut dire que dans la trajectoire, les choses, elles vont. Maintenant, moi, je pose la question maintenant. Puisque les choses, elles sont dans ma trajectoire, et que moi, de toute façon, je vais passer par là. C'est comme le train, tu dis, vous savez, quand le train, il part de Marseille, il s'arrête à Avignon, il s'arrête à Aix-en-Provence, il s'arrête à Lyon. Alors, c'est comme ça, tu sais. Vous savez, le train aura 4 arrêts. Ben, dans la trajectoire, dans la ligne de chemin de fer de ton mazal, les événements, ils existent. Ils sont pas encore réalisés, mais ils existent. Vous me suivez ou non? Donc, quand je dis, va vers toi, donc va vers ton mazal, où il est? Là-bas. Attention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, va-t'en. Maintenant, ça veut dire que si tu n'y vas pas, les enfants, ils vont pas naître. Si tu bouges pas le derrière, eh ben, ton teva, ta nature, elle sera pas connue dans le monde. Il dit ça, le Zohar. Regardez ce qu'il dit, le Zohar, c'est une chose incroyable, je l'ai découvert vendredi soir. Vous avez l'occasion un peu de regarder le Zohar ou non? Non? Pourtant, il n'y a pas la minuterie sur la télé, vous avez du temps. Bon, quand... Non. Si, il vous reste 24 heures. Regardez autre chose qu'un feuilleton. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Que Avraham, Hachem, il a dit à Avraham, l'ech lecha, ouais, il dit le Zohar une chose incroyable. Quand ils étaient encore à Ur-Kazdim là-bas, Sarah et Avraham, ils avaient dit, on va aller en Canaan. On va partir en Canaan. D'accord? Alors il dit, et après, la Torah a dit, Hachem, il leur a dit l'ech lecha. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, de là on apprend à Baal et Taher Messaïnlo. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, il peut rien faire en haut si toi t'as pas bougé en bas. Ils appellent ça itorerut delemata. Si toi tu bouges en bas, tu fais un mouvement, ouais, alors il peut se passer quelque chose en haut. C'est exactement pareil. T'as un grave malaise, t'as une angoisse, t'as un complexe. Tu dis, mais j'ai un psychologue de fou. Monsieur, le psychologue, vous pourriez l'appeler? Tu dis, je peux pas. Il faut qu'il vienne lui. Il faut qu'il soit demandeur. Mais pourquoi? De toute façon, quelle différence? De toute façon, qu'il vienne et que vous le soignez, ou que vous, vous allez, et qu'il accepte que vous le soignez, quelle différence? Non, il n'est pas demandeur. Il n'est pas demandeur. Tant que Hachem, tant qu'il n'y avait pas un homme sur la terre pour comprendre l'intérêt de la pluie, il n'a pas plu. C'est marqué que quand l'homme est venu, les plantes ont commencé à pousser. Mais les graines, elles étaient dans la terre. La graine, c'est un potentiel. Ça veut dire que ton mazal, il est potentiel, c'est une graine. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour y croire et pour le désirer, il ne va pas se réaliser. Toujours les gens, ils se posent la question. Mais Rav, est-ce qu'on peut rater son mazal? Les gens, ils se posent la question, ils ont peur. Rav, on peut rater son mazal? Est-ce qu'on peut se marier avec le mauvais? Et quand on est avec lui, est-ce qu'on sait que c'est le bon? Mais pourquoi tu te demandes si c'est le bon? Pourquoi tu ne demandes pas plutôt si c'est toi la bonne? Tu dis, enfin, moi, je suis la bonne puisque c'est moi. Moi, je me demande si lui, c'est mon mazal. Mais moi, je sais que c'est moi. Mais c'est faux, puisque toi, tu peux évoluer. Maintenant, si tu grandis, t'es quelqu'un d'autre. Comme t'es quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Donc, au lieu de te demander si c'est le bon, tu devrais te demander si toi, t'es la bonne. Parce que si Chas Veshalom, dans un an, tu fais tes chouva, qu'est-ce que tu vas faire avec cette excroissance de scooter? Tu vas dire, mais comment j'ai pu épouser un mec comme ça? Bon, c'est vrai, j'étais enceinte, je savais plus quoi faire. Mais il est complètement nul. Il a arrêté l'école en cinquième, il comprend rien. Mais qu'est-ce que je fais avec un mec comme ça? Le seul truc qu'il a de brillant, c'est les cheveux, parce qu'il met du gel, c'est tout. Tout le reste, il est nunuche, il est brel, il est truc, il n'assume pas, il ment, il triche, il embrouille, mais il est rigolo, il est sympa, quand je l'appelle, il est là, c'est normal, il n'a rien à foutre de la journée. Donc si je te dis, si chas veshalom, tu fais tes chouba, parce que si t'es idiote, je te souhaite de le rester toute ta vie, parce que le jour où tu vas te réveiller, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais avec un mec pareil? En plus, qui m'a fait quatre gosses qui lui ressemblent, des excroissances de scooter. C'est des gens qui, malheureusement, ils ont ce qu'on appelle une intra-cervicale de chamallow. C'est, on leur a implanté du chamallow dans le cerveau. On appelle des chalalas, c'est très connu. Ouais, d'accord. Tu dis, mais comment je peux être avec un petit pareil? Eh bien, à l'époque, il te ressemblait. Pour vous dire, hier soir, j'étais à Nice. Ce matin, j'étais dans la voiture avec quelqu'un. Il me parlait, voilà, à vous rappeler la fille dont je vous ai parlé, tout ça. Je dis, bah alors, ça fait 6 mois, bah alors, il faut se décider. Mec, beau gosse, sympathique, gentil, belle situation, belle bagnole, la fille pareille, sérieuse et tout ça. Je dis alors, il me dit, bah, je me rends compte qu'elle a des problèmes, qu'elle n'est pas claire dans sa tête. Finalement, les rabbins, ils ont dit qu'ils devraient suivre une thérapie parce qu'elle a subi des choses quand elle était petite. Je dis, écoute-moi bien, Yababa. Quand tu l'as rencontré, t'étais quelqu'un. Et maintenant, t'es comment? Bon, maintenant, j'ai beaucoup évolué dans mes teshuvas, je regarde les choses autrement. Peut-être que je devrais prendre une fille vraiment religieuse, pas une fille qui s'est convertie avant-hier. Je dis, ah, c'est quoi la question? C'est elle ou c'est lui? C'est toi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de trouver des raisons pour expliquer pourquoi elle n'est pas adaptée à toi? Ou t'es en train de te rendre compte qu'en fin de compte, que c'est toi qui n'es pas adapté à elle? Eh, c'est ça le problème. On épouse un potentiel ou on épouse une réalité? C'est comme si t'arrives à la fin du film et tu dis, c'est un DVD. Oh, j'étais dedans, purée, j'ai eu peur. Oh là, pendant 1h30, j'étais dedans. T'as pas peur de te réveiller au bout de 5 ans de mariage, dire oh, c'est un DVD. En plus, c'est un DVD nul. Et des fois, tu le regardes, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Mais t'as quand même attendu la fin. Donc là, c'est 1h30, c'est gérable. Mais là, c'est 5 ans et 3 gosses. Donc moi, je te conseille, avant de l'acheter, avant de le mettre dans l'appareil, demande-toi, peut-être au lieu de mettre un film, je vais mettre ma vie, peut-être. Peut-être j'ai quelque chose à faire de ma vie, peut-être. C'est que la chose, elle te renvoie un message. Ouais. Mais regarde-le, le message. C'est ce qu'il a dit Hachem. Il a dit l'air, l'étova techa, l'ana techa. Alors moi, je demande, j'ai dit, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais, je comprends pas, mais son mazal, Avraham, il existe, il va le vivre. C'est inscrit dans son histoire. Non, Rabotai. Parce que si c'est pas bougé le derrière, Avraham Avinu, il dit le Zohar, il va pas recevoir les enfants stériles toute sa vie. Son message extraordinaire qu'il a en lui, il va pas passer. Parce qu'il n'est pas sorti. Je dis, mais il faut sortir d'où pour exister? C'est ça la question. Alors, c'est marqué ici. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé à Avraham Avinu, va vers ton avenir. Alors je dis, mais c'est quoi la route pour aller vers son avenir? Alors je vais trouver des mentors, des gens qui vont m'encourager. Je vais trouver des gens qui vont me pousser. Il y a des gens comme ça, ils font les lourds jusqu'à ce qu'on les oblige. D'accord? Ce qu'on appelle le principe du dentifrice. Il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Il y a des gens au contraire, ils ont besoin des repères qui les font courir, comme les lévriers, ils ont un chien en plastique. Ouais, dans les courses de lévriers, il y a un chien en plastique sur un rail, et puis ils courent après. Il y a des gens qui veulent comme ça, ils veulent des motivations, des gens ont des projets. Mais c'est dangereux, parce que les gens qui ne fonctionnent que par projet, en fin de projet, ils ont toujours une dépression. Alors ils veulent un autre projet, par défi. Toujours des défis, toujours des défis. Et c'est dangereux, des filles, des garçons, c'est impossible. Ouais. Toi, tu ne dois pas vivre par défi. Toi, tu ne dois pas vivre parce qu'on te pousse. Toi, tu ne dois pas vivre parce qu'on t'oblige. Alors, quand j'étais petite, mes parents m'obligeaient. Après, c'est ma femme qui m'obligeait. Après, c'est mes enfants qui m'obligeaient. Après, c'est mon patron qui m'obligeait. J'en ai marre qu'on m'oblige. Mais au lieu d'en avoir marre qu'on t'oblige, t'as qu'à t'obliger toi-même. On appelle ça la conscience. Oh, c'est violent, ça. Quoi, je vais devenir mon propre bourreau? Non, tu vas devenir adulte. Je l'avais jamais regardé sous cet angle. Là, la pochette, vous la voyez, là? Vous la voyez ou non? Non, je ne sais pas. Vous la voyez?
Oui.
Même vous la voyez? Je la mets juste en face, parce que je ne sais pas si vous avez la force de lever la tête. Donc, vous la voyez, la pochette? Eh bien, il y a des gens, ils sont comme cette pochette. Si on ne les prend pas, ils restent là. Des années. Comme. Il y en a une, elle est venue chez moi. Je vous dis, je n'ai pas la télé, mais je ne m'ennuie pas. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, Ramet Chetrit. Ça fait 17 ans que je suis marié. Mon mari me frappe depuis 17 ans. Il a été violent devant les enfants. Il m'a toujours insulté. Il m'a toujours frappé. Mes enfants ont assisté. Tous mes enfants sont partis de la maison quand ils avaient 14 ans. Ils ont fait l'Aliya. Ils ont truqué. Maintenant, ils sont suivis par des psys. Ils sont tous déglingués. Maintenant, mon mari, j'en pouvais plus. J'ai fait une aide d'avocat. Il est parti de la maison. Ça fait un mois. Maintenant, je viens de le voir que sur Internet, il est déjà en train de chercher quelqu'un d'autre. Alors, vous savez ce qu'elle me sort? J'allais mourir. Elle me dit, Ramet Chetrit, est-ce que vous pensez que j'ai tout fait pour sauver mon couple? J'étais choqué. Je comprends pas. C'était vous la victime? C'est vous qui le frappiez ou c'est lui? C'est que la fille, elle est sortie vivante et normale après 17 ans. Elle se demande, elle a la culpabilité de dire, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je dis, mais madame, faut s'arrêter. Faut arrêter. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de conscience, ils ont même de la conscience, les gens qui ont de la conscience, ils ont même de la conscience pour ceux qui leur font subir leur manque de conscience. T'as compris ou non? C'est que la victime, elle trouve un lécapstrout pour le bourreau. Je dis, mais ça va pas votre tête. Mais déjà, Baruch HaShem, que vous soyez là en train de me parler au lieu d'être dans un asile de fous ou à la morgue, c'est déjà un miracle. Que vos enfants, ils soient à peu près normaux et que vous avez réussi à les élever, c'est un miracle. Que vous avez gardé un équilibre mental dans votre travail, malgré ce que vous avez subi, c'est un miracle. Et maintenant, vous allez vous culpabiliser pour l'autre dingue qu'après 17 ans et un mois, il est déjà en train de chercher quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il t'a jamais aimé. C'est bizarre, non? Comprenez cette logique? Ça veut dire que l'inconscient, il ne peut développer sa lourdeur que sur le crédit du conscient. Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est dommage. J'espère que ce n'est pas la vie qui va vous expliquer. Ça veut dire que quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas l'aimer à ta place. Il faut l'aimer, mais pas à ta place. Quand tu aides quelqu'un, il faut l'aider, mais pas à sa place. Quand tu éduques quelqu'un, il faut l'éduquer, mais pas à sa place. Mais si tu l'éduques à sa place, il ne va jamais grandir. Tu dis, c'est pas grave, je l'aime quand même. Eh ben alors, c'est foutu. Puisque lui, il peut rester un gamin, parce que de toute façon, tu es adulte pour deux. Alors pourquoi? Alors pourquoi tu le fais? Parce que tu sais que c'est idiot. La preuve, c'est que même dans ton travail, tu ne le fais pas. Mais émotionnellement, c'est pas la même chose. J'ai tellement peur. C'est ta peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas ta valeur. Donc regarde ton manque de respect jusqu'où il t'a emmené. Que l'autre il te détruit. Et t'as encore la culpabilité de dire j'ai peut-être pas tout fait. Tu connais pas ta valeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accompli ce qu'on a demandé à Avraham Avinu. Lech lecha. Lech lecha. Ça veut dire qu'un jour il a dit à Avraham, va vers toi. Ça veut dire à Botaï que son mazal, il n'est pas dans des années, il n'est pas dans un certain endroit, il est chez lui. Maintenant, si la personne, elle ne se bouge pas pour devenir ce qu'elle est censée être, il n'y a rien qui vient. Alors, si on peut rater son mazal, on peut aussi rater sa maison, on peut rater son travail. Mais pourquoi tu as choisi ce BTS? Bah parce que ma meilleure copine s'est inscrite là-bas. Mais tu voulais pas faire médecine? Si, mais ma meilleure copine s'est inscrite là-bas. Non, mais tu voulais devenir médecin? Ouais, mais ma meilleure copine s'est inscrite là-bas. Et là-bas, tu es contente? Non, mais ça te plaît ce que tu fais? Bah, je remplis une fonction et puis. Puis je lis des bouquins sur la vie des médecins. sais que la frustration, c'est quand même la première cause de dépression. Il faut le savoir. Par contre, l'épanouissement, c'est quoi? C'est la satisfaction d'être. Donc, donne-toi le moyen d'être. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être? Oui, attention. C'est l'événement qui te propose à toi de devenir. Maintenant, ce n'est pas l'événement que tu dois regarder. C'est la personne que tu veux devenir grâce à l'événement. Qu'est-ce que je vais gagner de cet événement? Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais grandir avec? Maintenant, si tu fuis l'événement, tu ne grandis jamais. Si tu l'acceptes, tu grandis toujours. Et si c'est comme ça, ça veut dire une chose incroyable. Que quand moi, je fais un effort, je fais quelque chose, ça produit un résultat. C'est clair pour vous? Je travaille, par exemple, ma matière, je maîtrise ma matière. Tu ne dis pas, peut-être je ne fais rien, je ne fais rien en compta, ou je ne me rappelle plus ce que vous faites en... En quoi? Il y a compta, il y a autre chose. Hein. Il y a plus le BTS. Non, c'est pas vrai. Comment je vais faire pour faire mon régime alors? Bon, donc vous faites votre compta à 100%, vous maîtrisez la compta. Jamais vous dites, bon, je fais rien, c'est pas grave, mais je verrai bien, sur le moment, je vais me débrouiller. Ben non, il y a un plan comptable, il faut le connaître, il faut le faire, il faut l'appliquer. Donc tu vois bien que quand tu travailles, tu obtiens un résultat. Quand tu assumes, tu grandis. Vous voyez cette logique là? Je suis content. Donc normalement, le résultat, il est au bout de l'épreuve. C'est pour ça qu'on avait dit à l'époque, Adam Tsarich Le'id Gaber. C'est quoi Le'id Gaber? C'est Liot Gever. Gever c'est quoi? C'est homme, c'est adulte. Qui est le contraire de Yeled, le Katan. Ouais. Maintenant, Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Qui c'est le fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? C'est celui qui est prêt à exister à ta place, dans le cas où tu ne voudrais pas exister. Donc en résumé, quand toi t'es absente, lui il est présent. Quand toi t'es présent, lui il est absent. C'est bon pour vous? Je pense pas, mais c'est pas grave. Retenez la définition. Non, parce que souvent dans la vie, on dit pourquoi t'as fait ça? On dit je sais pas. Mais enfin, tu peux pas dire je sais pas parce que c'est ta vie. Non, mais je suis pas réfléchi. Non, mais c'est ta vie là. Ouais, mais j'y ai pas pensé. Non, mais c'est ta vie. Mais je pensais pas que ça portait à conséquence. Non, mais c'est ta vie. Mais je ne pensais pas que c'est à moi de le faire. Non, mais c'est ta vie. Tu ne peux pas, dans ta vie, à toi, dire je ne sais pas. Parce que quand toi, tu ne sais pas, la vie, elle sait. Le Yetzara, il sait. Les conséquences, elles savent. La banane, elle sait. Tu peux me dire, jette la peau de banane, j'espère qu'il ne se passera rien. Blinéder. Ah bah oui, 2 ans d'hôpital, 3 ans de rééducation pour le mec qui est tombé derrière. 175 000 euros d'amende pour une banane. C'est pas possible. C'est une peau de banane. Oh, c'est une peau de banane, je veux dire, les gens ils ont qu'à regarder où ils marchent. Tu sais que McDonald's ils ont un procès pour une frite, vous êtes au courant? Une frite, c'est plus petit qu'une peau de banane. Toi tu peux te taper toute la colonie toi pour une peau de banane, ouais. Maintenant, une peau de banane, c'est quelque chose qui se voit. Bah, des fois la peau de banane c'est quelque chose qui se voit pas. J'ai pas réfléchi. Par exemple, t'as pas travaillé ton orgueil, d'accord? Ça c'est une grosse banane pour le couple ça. T'as pas travaillé ta patience, c'est une grosse banane pour le couple. T'as pas travaillé ton lekav zechout. C'est une très très grosse peau de banane pour le couple, ça. Maintenant, quand toi tu gardes la peau de banane, après tu dis, oh, j'arrive pas à le juger positivement. Je m'énerve tout de suite. J'arrive pas à lui donner du crédit. Mais attention, parce qu'un jour il va se fatiguer. Tu connais pas le taux de crédit, toi. Peut-être qu'il est cher. Donc ça veut dire qu'une personne, elle sait qu'elle ramasse des peaux de banane et après elle dit, comment ça se fait que je suis en procès? Bon, enfin, réfléchis, c'est un calvachomer. Si déjà McDonald's, il est en procès pour une frite qui n'est même pas prouvée. Mais toi, on la voit la banane. Dès qu'on te voit, on te dit « Oh, bonne année !» D'accord? Donc si déjà la banane, tu la portes en toi, donc il va y avoir des conséquences. Et ça veut dire quoi? Encore une fois, dans le bien comme dans le mal, on fait un acte et cet acte, il a des conséquences. C'est clair? C'est comme ça qu'on vise. Pourquoi tu fais des efforts? Parce que tu dis « Bah, au Hachem, il y a une récompense. » Maintenant, pourquoi quand il t'arrive une banane, tu regrettes? Parce que tu dis « Ben, écoute, c'est moi qui l'ai fait. Je me doutais quelque part au fond de mon inconscient qu'il allait m'arriver quelque chose. » Donc, tu comprends qu'il y a des causes et il y a des conséquences. Super, je suis content pour toi. Ça va? C'est bon jusque-là? J'essaie d'être pédagogique parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, il faut vous préparer intellectuellement. C'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat. Quand les Bnei Israël, ils ont dit « Naase Venishma ». Connaissez cet épisode de la Torah? Ils ont dit « Naase Venishma ». Nous ferons. Et ensuite, nous comprendrons. C'est-à-dire, ils ont accepté la Torah, bien qu'ils ne la connaissaient pas. Alors là-bas, la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Mi gila le banai raz ze shemalachei hasharet mishtamshim bo ». qui c'est qui a dévoilé ce secret, sous-entendu le secret de Naas et Benishma, à mes enfants, qui leur a dévoilé ce secret qu'utilisent les anges? Franchement, cette Guémara, je l'ai lue des centaines de fois. Je ne voyais pas le rapport avec les anges. Moi, je comprends que Naas et Benishma, c'est extraordinaire, qu'ils ont été capables de s'engager, qu'ils avaient un degré de confiance extraordinaire envers Dieu, c'est magnifique. Mais je ne vois pas le rapport avec les anges. Pourquoi les anges, ils ont besoin de Naas et Benishma? C'est bizarre. Tu vas dire, eh ben les anges, ils sont capables de s'engager sans savoir. Maintenant, mais je vous signale, mes chers amis, qu'un ange, c'est quoi un ange? Un ange. Viens dans toi, un ange, c'est pas un truc avec des ailes qui se balade dans l'espace. Un ange, c'est le véhicule d'une volonté divine. Ça veut dire que Dieu, il exprime sa volonté, ensuite sa volonté, elle se parcellise en milliards de micro-volontés, et chacune d'elles est véhiculée par une force qui s'appelle un ange. Ça va? Parce qu'il est marqué dans le Zohar que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Donc ça veut dire que derrière chaque vague, il y a un ange. Derrière chaque grain de sable, derrière chaque cheveu. Maintenant, pourquoi ce cheveu, il existe? Ben parce que Dieu le veut. Maintenant, comment la volonté de Dieu, elle s'exprime dans un cheveu? Parce qu'il y a un ange qui véhicule la volonté globale que Dieu, que le monde existe, qui la parcellise en milliards de micro-volontés pour qu'elle arrive ici. Exactement comme le terminal qui redistribue tous les appels téléphoniques qui viennent d'SFR. Puis, mais comment il arrive à gérer ça? On fait un milliard d'appels. Oui, eh ben, le bon Dieu aussi, il a un logiciel qui gère les milliards de volontés qui font fonctionner le monde. Ce logiciel est très connu, il s'appelle le Mazal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu. Ouais. C'est le gestionnaire de la réalité, d'accord? Alors moi, je pose une question. Puisque l'ange, ça n'est que la projection de la volonté de Dieu, ouais, qui est véhiculée par une créature qui elle-même a été créée par Dieu, qui s'appelle un ange, c'est bon? Donc, eh ben l'ange, il va faire la volonté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que l'ange, il dit Naas et Benishma. T'as compris la question?
Non.
La Gemara, elle dit. Qui a dévoilé, quand les Bnei Israël ont dit Naas et Benishma, la Gemara, elle dit que Dieu, il a dit, mais qui a dévoilé ce secret à mes enfants de Naas et Benishma que les anges utilisent? Alors moi, j'ai posé la question, mais en quoi les anges, ils ont besoin de Naas et Benishma? Naas et Benishma, c'est quoi? C'est je sais pas, je le fais quand même. J'ai pas peur de l'inconnu, j'ai confiance. Je vais m'investir, malgré que je connais pas la fin. Mais ça, c'est valable pour un homme. Parce que l'homme, il a un problème avec son téléphone. Parce que l'homme, lui, il doit faire un effort pour se dépasser. Mais l'ange, il ne fait pas d'effort pour se dépasser. C'est la continuité de Dieu, l'ange. Ça ne veut rien dire. Bon, on va essayer de répondre. En tout cas, au niveau des Bnei Israël, c'est quoi le chidouche? Écoutez bien ça. Restez concentrés encore un tout petit peu parce que je vous laisse tranquille pendant à peu près 4 semaines. Et je suis sûr que si Dieu veut, ça va vous aider. Quand les Bnei Israël ont dit Naas et Benishma, il dit Rav Dessler une chose incroyable. Vous savez que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient presque des goïms, vous êtes au courant? Vous dites quoi, quand même, Chas Veshalom? De toute façon, les Rechaim qui étaient en Égypte, ils sont morts là-bas, parce que les 4/5 sont morts. Donc ceux qui sont sortis, c'était les Tzadikim. Mais non, puisque quand Akjboukou, il a noyé les Égyptiens dans la mer, et qu'il a sorti, et que les Bnei Israël sont sortis vivants, les anges, ils ont dit, comment ça se fait que ceux-là, ils sont vivants, et ceux-là, ils sont morts, alors que les deux, ils servent l'idolâtrie? Donc ils étaient idolâtres. Quand on te dit les juifs ont été sauvés parce qu'en Égypte, ils ont gardé leur nom juif, ils ont gardé la langue hébreu et ils ont gardé leurs vêtements juifs, ouais, on dit c'est extraordinaire, c'est bon, ouais. Mais ça veut dire que tout le reste, ils ne le faisaient pas. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un juif pratiquant qui a gardé son nom juif? Bon, Ruben, bon, il ne veut pas dire Reuven parce que Reuven, ça fait vraiment fudge, il ne veut pas. Il dit Ruben. Qui a gardé son habit juif, ouais, et qui a gardé, et qui parle qu'en hébreu. Mais il mange du porc, que le Shabbat. Mais il n'a rien de juif, celui-là. Maintenant, ils en étaient là, les Bnei Israël. Essayez de comprendre, comment les Bnei Israël, qui sont à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu va leur donner la Torah. Mais ils ne sont pas adaptés. Alors écoutez bien ce chidouche. Il dit Rav Dessler, normalement, on a dit, encore une fois, je suis un peu lourd aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez bien. Normalement, quand on fait un effort, on reçoit le résultat. Quand on fait une mitzvah, on reçoit la kedusha de cette mitzvah, d'accord? Maintenant, eux, comment ils vont faire la mitzvah? C'est impossible, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Alors, il a dit Rav Dessler une chose extraordinaire. Quand ils ont dit Naas et Benishma, nous allons faire, ils sont engagés à faire. À Kadosh Baruch Hu, il leur a donné déjà la Kedusha de la mitzvah avant de faire la mitzvah. Normalement, encore une fois, la Kedusha, c'est le résultat. Il leur a donné la Kedusha de la mitzvah avant de faire la mitzvah. Et cette Kedusha qu'ils ont reçue avant de faire la mitzvah, c'est ça qui leur a donné la force de faire la mitzvah. Ça va pour vous ? Donc en vérité, ils n'avaient pas le niveau. Mais quand ils ont pris sur eux, Akadosh Baruch Hu leur a donné le niveau. Et maintenant qu'ils ont le niveau, ils vont faire. C'est clair ou non ? Mais c'est un ridouche incroyable. C'est ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que nous, on croit que le résultat, on l'obtient après qu'on a agi. En vérité, c'est faux. C'est quand tu t'engages. Quand tu t'engages, tu reçois, au moment de l'engagement, le niveau de maturité que tu devrais recevoir après. Et c'est ce niveau de maturité que tu as avant qui te permet de faire après ce que tu dois faire. C'est un ridouche, non ? Non ? Vous comprenez que c'est un ridouche ? Ça veut dire que tu ne peux jamais dire « je ne suis pas capable ». Puisque d'en être capable, tu le deviens en le décidant. Donc les gens, ils ne font pas. Ouais. Ou alors ils font et ils disent « ça n'a servi à rien ». Il n'y a rien qu'à changer, mais tu n'as pas compris. Ce n'est pas la situation qui doit changer. Toi, tu viens, tu dis, « Ouais, monsieur le rabbin, j'étais gentil avec mon mari, et ben ça n'a pas marché. » Mais on s'en fout de ton mari. Est-ce que tu as changé, toi ? Non, je me plaignais avant, ben je continue à me plaindre. D'accord, tu n'as rien compris. Et ton fils ? Eh ben voilà, j'ai compris, l'école n'est pas bien, et ben j'ai changé d'école. Et alors ? Eh ben c'est toujours pareil, il rentre, et il fait que des bêtises, et je n'arrête pas de lui dire. Dis-moi, pourquoi il est parti de la première ? Ben parce que tu l'as cassé. Et pourquoi il a raté dans la deuxième ? Parce que tu l'as cassé. Facteur commun, tu l'as cassé. Donc c'était la nouvelle école. C'était une nouvelle chance pour qui ? Pour lui ou pour toi ? Ben c'est pour lui. Oh ! Tu crois pas en Dieu, toi ? Je vous ai déjà dit que chaque personne qui est en face de moi, c'est un miroir qui me renvoie un reflet de moi. Donc toi, en tant que maman, quand ton fils il change d'école, pour lui c'est un changement et pour toi c'est un changement. Est-ce que tu vas profiter de son changement pour toi changer d'attitude ? Tu dis mais c'est pas ma vie à moi, c'est lui qui a des problèmes scolaires. Oui, mais toi t'as au moins 5% de toi dans cette histoire, puisque par hasard c'est ton fils, j'espère. Ça va ? Donc ça veut dire que tu dois répondre à la question, est-ce que maintenant qu'il est dans une nouvelle école, je vais changer d'attitude ou non ? Ma peur qu'il rate, je vais encore lui faire subir sous la forme de ma déception. Ma déception anticipatrice. J'arrive pas à me retenir, j'ai trop peur, j'ai été déçu par le grand, mon mari m'a cassé. Donc tu vas pourrir et polluer tout ton avenir avec la peur que tu as cumulée dans ton présent alors qu'elle vient de ton passé. Ça va ? C'est pas le moment de dormir, c'est dommage, je sais pas. Si vous entendez un deuxième cours comme ça ce mois-ci, vous m'appelez, je viendrai assister. Mais essayez de comprendre, on est en train de faire quelque chose d'important. Là, on ne parle pas de la Torah maintenant, on est en train de faire une Torah éducative qui vous aide à changer. Si vous prenez, vous pouvez gagner peut-être 5 ans de vie. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, parce que si Minash Shamaim, aujourd'hui, je suis venu vous parler, ça veut dire que c'est dans votre mazal que vous devez entendre ce discours. Mais vous pouvez rater le rendez-vous et prendre 5 ans pour devenir les personnes que vous pourriez être à la fin du cours. Vous allez dire, mais c'est pas possible puisqu'il faut 5 ans. Je t'ai dit, mais non, parce que c'est l'engagement. Donc s'il y a un flash de maturité qui se crée dans votre tête, vous gagnez 5 ans. Si vous dites non, je préfère dormir, c'est pas grave. Tu sais, je veux te dire, rien n'est grave. Moi, j'ai l'habitude. Les gens, je leur explique un truc. Ils viennent 5 ans après. Mais grave, j'ai compris. Oui, je sais, ça prend du temps. Mais je pensais pas que c'était sérieux parce que vous rigolez tout le temps. Je rigole tout le temps. Et je continuerai à rigoler. Mais toi, t'es pas obligé de croire que c'est une blague. Ben, c'est comme ça la vie. Parce que si on disait sérieusement, les gens, ils se tiraient une balle dans la tête. Ils disent, mais c'est grave. Pourquoi il me met ça dans la tête ? J'ai envie d'être une tête en l'air. Mais tu ne peux pas être une tête en l'air. Parce que peut-être l'année prochaine, tu seras maman. Donc tu ne peux pas être une gamine cette année et une maman l'année prochaine. Ça fait court, un an. Il ne faudrait pas que le bébé à la naissance, il soit plus âgé que toi. Pourquoi il me regarde avec ce regard sérieux ? C'est-à-dire que toi, tu es une excroissance de poster, si je comprends bien. Ouais. Et cette logique, c'est quoi ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous beaucoup. Donc comme il demande beaucoup de nous, donc il nous donne des grands moyens. Mais si on disait, oh la vie elle est dure, mais nous on est nuls. Mais non, c'est une erreur. Si la vie elle est dure, c'est qu'on est bon. Tu dis, mais c'est quoi être bon ? Ah bah tu dis, c'est se donner les moyens d'être bon. Alors comment on fait pour se donner les moyens ? Eh ben 5 ans d'apprentissage, 24 ans de moussard, 10 ans de thérapie. Oui. Et avant ça ? Eh ben, rien, il faut y aller. Eh ben, c'est toi qui l'as dit, il faut y aller. Il faut prendre la décision de devenir bon. Or, la décision de devenir bon, elle déclenche les crédits d'actes pour devenir bon, qui t'amènent les expériences pour devenir bon, qui font de toi quelqu'un de bien. Ça va? Mais si t'as pas bougé au départ, si t'as pas fait l'erlecha, wello. Et j'adore ça, j'adore. Les gens te disent, je sais ce que vous allez me dire. Mais Yachmar, si tu sais, fais-le. Non, il divorce, après il dit, bon, j'ai fait des erreurs, je reconnais, c'est vrai que maintenant qu'elle est partie, que bon, je me rends compte que, bon, quand je vois les, bon, quand j'entends ce que, quand je vois mes enfants, moi, j'ai deux asthmatiques, une anorexique, je me rends compte que j'ai dû être violent avec eux. Je pense que j'ai une part. Mais c'est pas une mitzvah d'être lourd. Vous comprenez ou non? Alors pourquoi tu mets un acharnement à rester brel? Et quand ça t'énerve d'avoir un lourd en face de toi, tu devrais te dire, mais en fin de compte, il me ressemble. Je voudrais bien avoir quelqu'un de différent. Eh ben, t'as qu'à changer. Change de budget, change de standing, change de crémier. Tu dis, non, je veux pas changer de budget. Alors tu continues à aller chez ED et tu te la fermes. Ben, c'est comme ça la vie. Ah non, mais moi, je voudrais du fromage importé de Hongrie avec le Hersher du Rav Marpound. Bien sûr, 460 euros les 100 grammes. C'est cher! Oui, t'as raison. Alors, va chez ED et fais-moi plaisir. Tais-toi. Oh, pourquoi? Tais-toi et mange. Et c'est logique. Les gens, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent, mais ils ne changent pas. Ils râlent, mais ils n'évoluent pas. Ils se fabriquent des dossiers accusateurs. Des autres, bien sûr, parce qu'on est tous les psychiatres. Non, ma belle-mère, c'est un cas. Elle est spéciale. Non, c'est vraiment un monstre. Hein. Elle m'a jamais aimé. On va en parler. Puis je l'ai rencontrée, elle n'a pas l'air tellement folle. Oui, mais elle s'est trompée son monde. Moi, j'ai tout de suite compris. Vous savez, les gens qui pensent que personne ne les aime, c'est déjà un symptôme. Il faut l'envisager. À plus forte raison, les gens qu'on a peur qu'ils ne nous aiment pas, qu'on va penser qu'ils ne nous aiment pas, à plus forte raison. Surtout quand on leur a pris leur fils qu'ils ont élevé pendant 24 ans, alors qu'il était divorcé à 5 ans, et qu'il était presque le mari de madame. Tu lui as volé son soutien, son confident, son aide, et maintenant tu voudrais qu'elle t'aime, mais elle va te haïr, voleuse. Ou peut-être que non, peut-être qu'elle veut, elle veut l'évolution de son fils, elle veut qu'il grandisse, elle veut qu'il soit heureuse, mais seulement elle voudrait un peu de reconnaissance. Pas que tu dises merci, dégage. Bon, c'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on n'est pas des sauvages. Je veux plus que tu lui parles. Elle est trop dans notre vie. Non, mais elle est seule, elle est veuve. Laisse-le téléphoner une semaine, une fois par semaine. Non, c'est ou elle ou moi. Non, mais c'est pas facile pour elle, elle est seule, jetée là-bas à Garges-Ligonnès. Au moins qu'il aille la voir une fois. Non, qu'elle crève. J'exagère? Est-ce que j'exagère? J'exagère. C'est ça que j'ai au téléphone, moi, toute la journée. Tous les jours. La belle-fille, bien sûr. La belle-mère, c'est pire. Non, je rigole. J'exagère, la réalité est bien pire. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Détendez-vous. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Que celui qui s'engage à faire... Attendez, je ne vais pas sauter des étapes. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est quoi? Encore une fois, j'ai dit que la récompense, normalement, on l'obtient après l'acte. D'accord? Mais là, la Torah, elle vient nous dire un chidouche, que la personne, au moment où elle s'engage à faire, Akadosh Baruch Hu lui donne les moyens de faire. Donc ça veut dire que comme parmi les récompenses, comme on l'expliquait tout à l'heure à l'école, que le principal, c'est pas de connaître le programme, c'est le niveau de maturité que tu vas avoir. Ça va? Ça veut dire qu'en début de BTS, quand tu as décidé d'avoir ton BTS, tu as déjà ton BTS. Mais quand tu dis, bon, j'y vais comme ça parce que mes parents m'ont obligé, faut que j'ai un diplôme. Après, je vais en cours parce que je veux pas me faire engueuler par Mme Cohen. Après, je reste assis parce que c'est un truc. Les heures de collège, bon, bah, ça va, je suis juive jusqu'à preuve du contraire. Alors, quand tu arrives au BTS, t'es pas vraiment motivé. Donc après, on t'oblige à passer un examen. Bah, tu sais, tu vas quand même le rater parce que tu as quand même encore le droit de redoubler. pourquoi rentrer tout de suite dans la vie active alors que tu peux être cool avec la petite bagnole que tes parents t'ont acheté? Tu peux pas réussir. Tu peux pas réussir parce que t'es pas là. T'es pas là, là, je te vois pas, je te vois pas te battre. Ouais, mais ça va, je viens là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je te vois pas bosser. Non, mais j'ai pas besoin, moi je comprends tout de suite, je retiens tout, Blainara, je suis une clé USB. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, t'es pas là. Moi je vous dis, je donne toujours l'exemple du couple, parce que les gens ils comprennent très bien. Combien de fois j'ai dit à des maris, mais monsieur, vous n'êtes pas marié? Il dit, écoutez, je comprends pas ce que vous. Non, je vous parle clairement, je vous êtes pas marié. Vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas sensible, vous n'êtes pas investi, vous n'êtes pas réfléchi, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas de compréhension, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Bon, écoutez, on s'est marié au Tournel, il y avait les témoins, il y avait le rabbin. Je parle pas de la formalité. Le stylo aussi, il était là. La roupa aussi, elle était là. Ben, c'est pas marié. C'était un objet de plus. T'étais dans le décor. Mais c'était pas toi. Ben, c'est une implication. Tu dis, mais où je vais trouver la force pour construire mon Shalom Bayit, l'engagement du mariage? Mais où je vais trouver la force d'aller jusqu'au bout du BTS, l'engagement de la veille de l'inscription? Mais où je vais trouver la force d'aller au bout de ce projet de business, l'engagement de départ de le faire? Où je vais trouver la force de sortir mon fils de la leucémie, l'engagement de départ, il va vivre. Tu dis, mais attendez, mais c'est grave ce que vous dites là. Ça fait beaucoup hein, sur le poids d'une seule personne. Mais pourquoi tu crois qu'Hachem il a créé l'homme à son image? Il n'y a pas écrit qu'il a créé le bœuf à son image. Non, vous le savez ça. Dieu n'a pas créé le bœuf à son image. Mais il a créé l'homme à son image. C'est clair pour vous, non? Oui ou non? C'est vrai? Vous êtes convaincu que Dieu il a créé l'homme à son image et pas le bœuf? C'est vrai? Alors pourquoi un homme est compris comme un bœuf? Et pourquoi une femme elle est fière quand elle passe dans la rue et que tout le monde dit « Oh la vache! Oh le canon! Pourquoi ça te fait plaisir? » Tu dis « Oh, oh. !» Tu remues les cornes comme ça, tu dis « Regarde la vache, elle rougit. Oh! Elle est mignonne la vache! » Mais comment cette excroissance de scooter, elle peut te faire un compliment? T'es quoi toi? T'es rien. T'es quoi? T'es une beurrette. Mais t'es quoi toi? Que ça te fait quelque chose? Tu te dis, oh, ça m'a fait quelque chose. Ça fait deux fois que je le vois, deux fois qu'il me dit que je suis mignonne. T'es une vache sensible toi, t'as un grand cœur. 2,5 kg le cœur de la vache. C'est pas possible. T'es une batte Israël. T'es une princesse, t'es un diamant. T'es place Vendôme. Le mec, il a la tête gueulée, collée à la vitrine en train de regarder le diamant. Tu dis arrête de baver, bah, dégage, t'as pas de quoi payer. C'est tout. Ou alors, non, t'es là-bas, place des fêtes, ou là, en face du comment il s'appelle au Butchemont, là-bas, il t'attend. T'as dent qui repasse. Il va repasser, je sens qu'il va repasser. Bah, c'est normal, il fait que ça, lui. Ou il repasse, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il va revenir, je l'attends, là, il est là. Ça fait 4 samedis que je suis là, tout l'après-midi, en train de monter, descendre. Et, si Dieu veut, il va revenir. Oh, j'en reviens pas, il est revenu. Mais c'est logique. Comprenez ça? C'est logique. Ici, on parle de choses importantes. Que quand tu vas prendre la décision, automatiquement, tu vas fixer tes choix. Automatiquement, tu vas fixer le résultat. Automatiquement, tu vas définir la maturité. Et automatiquement, tu vas fixer ton mazal. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a dit Avraham Avinu lech lecha, alors les gens ils croient il faut se bouger, faut aller au bout du monde, faut faire la transatlantique. Mais non, les goyim, les pauvres, ils ont de la peine. Ils font la transatlantique à la voile, ouais, 80 jours de mer avec la tempête, avec la hababa. Après tu dis alors où t'as été? Il dit j'étais au bout de moi, j'étais au bout de moi-même. Quoi, t'as fait 80 000 km pour aller au bout de toi? Mais il suffisait que t'ailles jusqu'au canapé parce que t'étais assis dedans. Ouais, mais c'est pas pareil, t'as le caporne, t'as la flotte qui vient dans la tête, t'as la peur, t'as l'angoisse de pas revoir ta famille, t'as le mât qui se casse, et là tu vas au bout de toi. Qu'est-ce que je te dis? L'égoïme, ils aiment le chra. La Torah, elle t'a dit deux mots, t'as pas besoin de faire 20 ans de thérapie, deux mots, l'air, l'écha. C'est pour ça que je vous avais expliqué le Maharal de Prague, vous vous rappelez avec le cercle? Non? J'ai pas dit ici? Madame Cohen, je deviens gâteux. Je me soigne, j'ai l'esprit un peu lent en ce moment. Je vous donne la règle. C'est une image que le Maharal de Prague il a donnée. Mais cette image, elle est tellement fondamentale. Je l'ai dit à un psychologue, il m'a dit oh, ça, c'est au moins un an de fac. Je lui ai dit fac, j'ai pas fait un an, j'ai gagné un an. Avec un exemple. Regarde, un exemple du Maharal, c'est un an de fac. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est un cercle? Il dit le Maharal que le cercle représente l'homme. Ben, vous avez tracé un cercle une fois. Vous prenez un compas. Le compas, c'est très bizarre. Il a un côté pointu qui pointe mais qui n'écrit pas. Et un côté qui écrit mais qui ne se fixe pas. Un truc bizarre, ouais. Vous le plantez dans la feuille, votre compas. Ensuite, vous tournez autour. Ça trace un cercle. Je suis super content. Vous voyez, le périmètre du cercle, ouais, ce sont des millions de points qui correspondent à quoi ? Aux actes de l'homme. Toute l'extériorité de l'homme, c'est tout ce que tu fais, dans toutes les directions. Maintenant, attention. Tous ces points sont à la même distance du centre du cercle. Ça va ? Maintenant, où sont les points ? Vous les voyez ? Ils sont là, les voilà les actes, ils sont là, les actes. Les voilà, vous les voyez, vous les tous ? Super. Maintenant, attention, dès qu'on enlève le compas, où il est le centre ? Je ne le vois plus. Pourtant, je l'avais pointé ! Vous savez ce qu'un homme fait toute sa vie ? Il essaye de retrouver le centre qui est à l'origine de ses actes. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pensé ça ? Qui c'est le mec qui pense ? Pourquoi ça me fait de la peine ? Pourquoi je me prends de la tête ? Pourquoi je me suis engueulé alors que je l'adore ? Il cherche le centre. Vous savez ce qu'il fait, Yetzirah, lui ? Il trouble le sens, le centre. Il fait que tu ne sais plus qui tu es, que tu es perdu. Parce que Icar, Avodat, Yetzirah, les Balbel et Tadeot, le principal objectif du Yetzirah, c'est d'embrouiller la personne. Maintenant, celui qui connaît son centre, écoutez bien, il est indestructible, il est infatigable, on ne peut pas le remettre en cause. Il a des réponses à toutes les questions parce qu'il connaît le centre. Pourquoi ? Parce que toutes les questions, elles sont chez toi. Et toutes les réponses, elles sont chez toi. Toute ta force, elle est chez toi. Vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, en médecine, des fois, tu as une grosse fatigue, d'accord ? Tu te dis, c'est pas possible. L'autre jour, j'ai fait un séminaire. J'étais seul. Et 4 conférences de 2 heures avec 80 personnes, plus les repas, plus les discussions. Je te dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas faire 48 heures. C'est fatigant. Là, je vous fais un cours, c'est fatigant. C'est fatigant de faire un cours. On ne croyait pas. Oh, ça, là, il a l'habitude. Non, c'est très, très fatigant de donner beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de force. Comment je vais faire ? Je vais calculer le temps de repos. Alors, je suis à table, par exemple, jusqu'à 9h20. Je dis au type, écoute, tu les mets en salle. Je rentre dans la chambre, j'enlève ma cravate, j'enlève mes chaussures, j'enlève ma veste, je m'allonge. 10 minutes. Et je dors. Comme ça. 10 minutes. Et je me réveille à 29, je descends à 30, je rentre, je parle 2 heures. Et après, je reste jusqu'à 3 heures du matin avec eux. Je dis, mais c'est pas humain. Non, chacun, il sait exactement où trouver des forces. Parce que même toi, Hasvei Shalom, si tu as un grave problème dans la famille, tu dis, mais en fin de compte, tu n'as pas dormi pendant 3 jours. Ouais, c'est vrai. C'est que le projet, il t'oblige à revenir à l'essentiel. Dans l'essentiel, tu es inusable. Dans le superficiel, tu es usable. Tu dis, oh, je ne peux pas manger à midi. Oh, je me sens pas bien. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Dans le superficiel. Mais dans l'essentiel, tu es inusable. Si tu sais aller ressourcer à l'intérieur, vous me suivez ou non ? Tu retournes au centre, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Maintenant, on te pose une question. Tu dis, oh, pourquoi il m'agresse avec sa question ? Attends, tu dis, il me pose la question. C'est pas lui qui pose la question. C'est Dieu qui me pose la question par rapport à lui. Donc, si Dieu, dans l'essentiel, il me pose la question, c'est que moi, dans l'essentiel, je connais la réponse. Alors, je dis, stop, stop, arrêt sur image. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Attends. Je vais me sortir de ma gava, de ma bêtise, de ma lourdeur, de ma prise de tête, de mes complexes. Je vais retourner à l'intérieur, je vais trouver la réponse. Vous voulez la preuve ? Moi, j'adore ça. Les gens, ils viennent, ils posent des questions, d'accord ? Écoutez, ça, c'est trop rigolo. Le type, il pose une question. Maintenant, ça fait 5 ans qu'il a la question. C'est une question lourde. Avec son père, sa mère, ses frères, c'est un truc lourd. Tu donnes la réponse, il fait « Oh, c'est exactement ce que je pensais. » Je dis « Alors, pourquoi t'as attendu 5 ans ?» Elle dit « Ouais, mais peut-être que j'avais pas assez confiance en moi. » Ou tu dis « Vous avez mis des mots sur ma sensation. » Mais mettre des mots, ça veut dire concevoir. Concevoir, ça veut dire maîtriser. S'il y en a un qui doit bien maîtriser sa vie, c'est bien toi. Donc, en fin de compte, écoutez bien, le manque de confiance en toi, il fait que même le bon sens, tu fais pas ton confiance. Même ton bon sens, tu fais pas confiance. Alors comment tu vas réussir un jour, si Dieu veut, à avoir des questions et à accepter que les réponses, elles sont en toi, au lieu d'attendre que le bon Dieu, il ait l'amabilité de t'envoyer la personne qui t'envoie la réponse. Tu sais pourquoi ? Parce que les plus grandes questions, personne ne va te donner les réponses. Voilà, t'as tort, t'as engueulé ton mari, après tu te rends compte que t'as eu tort. Et il faut revenir, parler, t'excuser, et essayer de comprendre. Tu dis, ouais, mais je peux pas, là je suis blessé, là... Là, je sais que c'est mon amour propre, je sais que c'est difficile, je sais que j'ai tort, mais j'arrive pas, il a qu'à faire le premier pas, comme c'est toujours lui qui revient. Ouais, mais peut-être qu'aujourd'hui il reviendra pas. Donc tu vas aller au centre. C'est ça le centre du cercle. Vous comprenez cette logique-là ? Alors celui qui a son centre, c'est ce qu'on appelle le lève. Et il dit le Maharal de Prague, Akol Novea Mealev, tout vient du cœur. Donc celui qui sait où il est son cœur, et pas son cœur sensible, encore une fois, le centre de sa personne. C'est la paroi la plus proche de la Neshama. Mais il est indestructible. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu lui mets, quand je l'agresse, elle remet en cause. Non, parce que lui, son centre, il bouge jamais. L'autre jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, mais Rav, on m'agresse, on me remet en cause, c'est difficile, et puis je suis troublé, et puis j'ai perdu de l'argent, et puis ma femme, elle veut qu'on parte en vacances, et j'ose pas lui dire que je suis en plein dépôt de bilan, et mes enfants, ils explosent le téléphone et la carte bleue, mais je sais plus où je suis. Je dis, écoute, c'est ce que tu dois faire. Parce que des fois, les gens, ils peuvent pas prendre une explication, parce que c'est trop abstrait, il faut un exemple. Je dis, tu t'imagines que on t'a ouvert le ventre, avec anesthésie, on t'a mis une bouteille de nitroglycérine. C'est ce qu'est la nitroglycérine. C'est un liquide qui explose quand on fait un choc. Et il y a 20 types autour de toi qui veulent te mettre des coups de poing. Tu me dis, je vais exploser. Alors je te dis, garde ton calme, quelles que soient les circonstances. Alors tu dis, ah, oh, mais c'est pas facile, hein. Vous croyez que c'est simple? Non, t'as pas compris. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais toi, tu ne dois pas bouger. Ton fils, il va te sortir les yeux, tu vas mourir. Comment tu vas faire pour garder ton calme? Tu dis, je vais agir, mais à l'intérieur, je ne bouge pas. Parce que la seule manière de trouver la solution, c'est justement de ne pas rentrer dans le bilboul. Lui, il te sort le bilboul. Il est un agent du Yetzer, ton fils. Ton mari aussi. La parnassa aussi. Ton corps aussi. T'as pris un kilo. D'accord, t'as pris un kilo. Alors tu vas faire la gueule une semaine à ton mari. Ouais, mais je grossis, ça me saoule, ça m'énerve. Mais il t'a rien fait, lui, le pauvre. C'est pas de sa faute si t'as grossi. Lui, justement, il aime bien quand t'es un peu grosse. Ouais, mais il se rend pas compte. Et puis je vais au sentier, j'ai rien à me mettre, j'ai la honte. Elles sont toutes là dans leur 34. Bah, c'est rien, t'as inversé les chiffres. T'es au 43, ils sont au 34. T'as qu'à regarder comme ça. De toute façon, il t'adore comme t'es, il t'adore. Tu dis, ouais, mais il se rend pas compte et puis il me comprend pas combien je souffre. D'accord. Donc lui, il a épousé une femme pendant 20 ans. Sur les 20 ans, pendant 10 ans, t'as fait la gueule. C'est intéressant pour lui. C'est pas de sa faute. Comment cette logique là ou non? Tu dis, mon couple, il bouge pas. On va parler, mais mon couple, il bouge pas. La balance, d'accord, je vais la gérer, mais moi, je bouge pas. Les enfants, ils grandissent, mais moi, je bouge pas. Tu me dis, c'est possible, on peut pas. Quand on a. Mais t'as une bouteille de nitroglycérine dans le ventre. C'est très bien que quand la maman, elle craque, toute la maison, elle coule. C'est clair pour vous? Alors quoi? Alors tout pèse sur nous! Vous en faites pas, je dis la même chose aux garçons. Mais il faut avoir ce sentiment, parce que si tu l'as pas ce sentiment, ça veut dire que tu as l'autre sentiment. Et l'autre sentiment, c'est tout pèse sur l'autre. Ça, c'est dangereux, ça veut dire que tu grandis pas. Ici, c'est marqué. La personne, elle accepte de quoi? De comprendre que son engagement, c'est ça le déclencheur de la Siyata Dishmaya pour réussir. C'est-à-dire qu'Hachem, il va t'aider parce que tu t'engages. Et c'est normal en vérité. De vous à moi, le bon Dieu, c'est un scanner. Bochen Levavot, ouais, il sonde les cœurs. Donc au fond, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu vaux. Donc à quoi il sert l'acte? Il sert à prouver à Dieu que tu es capable, il le sait. Il sert à prouver à toi que tu es capable, c'est possible. Il sert à devenir, oh, c'est envisageable. Il sert à être certain pour toi que tu penses que tu penses. Ça, c'est vrai. Donc tu as besoin de l'acte, toi, lui, il n'a pas besoin. Donc qu'est-ce que ça lui coûte à Dieu de te donner le bénéfice de l'acte au moment de l'engagement, puisque de toute façon, il va te le donner après l'acte. C'est clair? Et si vous dites, mais il prend un risque, le bon Dieu, parce qu'il me donne le bénéfice avant que je fasse le travail, et si je ne le fais pas le travail? Mais lui, il sait le type d'engagement où on fait et où on ne fait pas. Comme ton fils. Ça fait 140 fois qu'il te promet qu'il va travailler à l'école. Pourquoi cette fois-ci tu fais confiance? C'est quoi le grand yetzara d'un parent à qui son fils il dit « Papa, je te promets cette fois-ci, ne me frappe pas, ne me truc pas, je te promets, je vais travailler. » Pourquoi cette fois-ci, il lui dit pas la chose la plus grave, il lui dit pas « Mais tu me l'as dit 100 fois. » Parce qu'il a entendu une espèce de vibration dans sa voix que cette fois-ci, il s'est passé quelque chose. Là, la maturité, elle est arrivée, là. Tu l'as senti, là. C'est comme ça. C'est comme l'accouchement. Tu sais que ta femme, elle a accouché. Pourtant, ça fait une heure qu'elle pousse, mais maintenant, c'est bon, le bébé, il est né, tu sais. C'est comme ça. Pareil, moi, je vois les élèves, et ils m'écoutent, et un jour, je dis, aujourd'hui, t'as compris? Il me dit, ouais, j'ai compris. Mais tu le savais? Ouais, je l'avais écouté il y a 10 ans. Mais tu l'as écouté en CD? Ouais, je l'écoute en CD. Mais tu l'as même enseigné? Ouais, je l'ai enseigné. Ouais, et alors? Mais aujourd'hui, j'ai compris. Comment je sais, moi, que t'as compris, moi? Je vois la brillance de tes yeux. Ça se voit. Quand les gens, ils comprennent, c'est qu'ils ont un contact avec la réalité. Sinon, bah, c'est culturel, c'est bien. Hein. Je suis Bauch Hashem, c'est mieux que de dormir. Je suis content que tu sois là. Puis ça fait des années qu'on se voit, donc je pense que si tu veux, ça fait du chemin. Et puis des fois, c'est comme ça. Ouais. Il est bien, hein. Sympa. Puis il est rigolo, l'autre, il va. Attends, oh, lui, on se parle bien. Puis on se sent concerné. Tout le coup, il était pour moi. Hein. Ça me fait drôle. On dirait que je sors de ma séance. Là. D'accord. Mais c'est pas ça qui est important. Le problème, c'est est-ce que maintenant, il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as adhéré à quelque chose? Est-ce que tu as accepté quelque chose? Est-ce que tu veux changer sur quelque chose? C'est ça qui est important. Quand tu le prends, c'est fini, c'est terminé. Le travail, il est fait. Après tout le reste, ça va être seulement l'accomplissement. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a rien demandé à Avraham Avinu. Il a rien demandé. Il a dit l'Ech Lecha. D'accord. Mais ce l'Ech Lecha, il est venu après quoi? On a dit après qu'il avait décidé d'aller en Canaan. Mais alors, quelque part, le bon Dieu, il a fait double emploi. Puisqu'Avraham Avinu, il avait déjà accepté d'aller en Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit l'Ech Lecha. De ce l'Ech Lecha, il va avoir des enfants, il va développer son mazal, il va avoir la bracha, il va. Tout ce qu'il va avoir. Oui, sur la base d'un Lech Lecha qui naît d'Hachem, qui n'est que la confirmation d'une volonté qu'il avait déjà au départ. Ça va? C'est bon pour vous ou non? Donc rabotage. C'est pas clair?
Juste, alors pourquoi il y a eu les épreuves si à la base il y a eu l'engagement d'Abraham?
D'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve, elle n'est pas pour le bon Dieu. Elle est pour moi, que pour passer d'une étape à une autre. C'est-à-dire pour penser ce que je pense et pour sentir que je suis devenu ce que je pense, il faut passer par là. Comprenez cette logique? Non, c'est pas grave. Regardez, le cours, vous l'avez bien compris. Super. Le cours de maths, vous l'avez bien compris. Les exos, vous les avez fait. Ouais. L'examen, l'interro, vous l'avez passé. Ouais. Et vous n'avez pas triché. Ouais. Et vous maîtrisez. Ouais. Et j'ai pas seulement fait les X exercices que le prof il a donné. J'ai fait les 60 du livre. J'ai acheté encore 3 bouquins de maths. J'en ai fait encore 90. Il me sort par le nez maintenant. Ouais. Voilà. Alors pourquoi je passe l'examen? C'est ce que j'ai dit au début du cours. L'examen, il est pour que moi, je me rende compte du niveau de maturité que j'ai atteint. Parce que maintenant, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de cahiers, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de classe. Parce que dans la vie, il n'y aura personne, il y aura toi et ton mari. Tu diras, ouais, parce que moi, je vois les gens, ils viennent chez moi. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez des spectateurs à votre douleur, mais on s'en fout de votre histoire. Ouais, ma soeur, elle m'a dit, ma belle-soeur, elle m'a compris, ma belle-mère, elle sait de quoi je parle, mon psy m'a encouragé. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le monde entier, il pense que ton mari est brel? Mais c'est une feuille d'examen, ton mari. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Ton fils, c'est une feuille d'examen. Comprenez ou non? Toute la vie, c'est des feuilles d'examen. Mais à l'examen, il n'y a personne. Il y a toi et la feuille. Tu dis à l'examinateur, allez, monsieur, laissez-moi encore un an, donnez-moi des heures. Il fait comme tu veux, tu peux partir. Quoi, alors je l'ai raté? Tu l'as pas raté, t'as qu'à le faire. Ouais, mais je suis pas prête. Eh ben, tu l'as raté. Mais pourquoi je l'ai raté? Pourquoi vous avez fixé l'examen en fin de deuxième année? Fallait le faire en fin de huitième année. Mais je comprends rien ce que tu racontes. Je comprends rien ce que tu racontes. Mais la vie, c'est comme ça. La vie, c'est une série d'examens. L'accouchement, c'est un examen. La Brit Mila, c'est un examen. La Bar Mitzvah, c'est un examen. Le premier repas de Shabbat que tu as fait, c'est un petit examen. Les premières halot, c'est un examen. Le visage de ton mari quand il voit tes halot, c'est un examen. Ton premier Shabbat, qui est proche de l'homicide volontaire, ouais. Est-ce qu'il va faire et il va aller vomir? Ou non? T'en sais rien. Comprenez cette logique? Alors encore une fois, il y a des petits examens, il y a des grands examens. Mais dans tous les cas, t'es seul avec ta feuille. Ça va? Donc il a besoin de l'examen, mais c'est pour lui-même. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de l'épreuve pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. C'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit à Nisayon, ou Bishvil a menoussé, vélo a menacé. Le menacé, c'est celui qui met à l'épreuve. Le menoussé, c'est celui qui subit l'épreuve. Pourquoi en hébreu, comment on appelle à menacé, c'est comme en français, c'est le qui menace. C'est quoi une menace? Une menace en français, c'est une mise à l'épreuve. Donc le bon Dieu, il te menace. Tu dis, pourquoi tu me menaces? Mais je te menace pas. Je suis menacé au train. Ah, excuse-moi, je croyais que tu me menaçais. Alors, celui qui n'assume pas les épreuves, il les prend comme des menaces. Il m'angoisse avec son interro. Mais c'est toi qui en as besoin. T'as vu comment il m'a rendu la feuille? Mademoiselle Bénichou, je vous ai mis 3 par pitié parce que vous n'avez pas fait de faute dans votre prénom. Mais pour qui il se prend ce Deb? Bon, d'accord, il est débile, d'accord. Mais toi quand même, t'as quand même 3 sur un truc qu'on a préparé pendant 3 mois. S'il y en a, si on, compte, on commence à compter les Deb, on va peut-être faire un groupe. Hein. Oui, c'est logique. C'est-à-dire, t'es sûr que c'est le prof qui t'aime pas. T'es sûr. T'as rien foutu. T'as rien fait. La veille de l'examen, dans le métro, t'as regardé le livre. Tu l'as regardé le livre. Tu dis, si Dieu veut, t'as mis une mezouza dedans. Tu dis, Hachem va m'aider. T'arrives à l'examen, tu dis, attendez, il est en quelle langue l'énoncé? C'est du russe? Non, non, c'est du français. Mais les formules, là, c'est quoi? C'est des incantations? Non, 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 c'est des théorèmes que vous êtes censé avoir fait en classe. Après, tu dis qu'il t'agresse. Je vous ai déjà dit cette phrase. Notez-la, même si vous la connaissez par cœur. Répétez-vous-la, même pour les nouvelles, écoutez-la. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Vous vous rappelez de cette phrase ou non? Les anciennes, elles se rappellent quand même. La violence du réveil, elle dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, tu dors dans tes études, le réveil va être violent. Tu dors dans ta relation avec Kevin, le réveil va être violent. C'est toi qui décides. Bah, toute la vie, c'est comme ça. Donc maintenant, si on a compris, qu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, ton mazal, il n'est pas devant toi. Ton mazal, il est en toi. Maintenant, pour l'atteindre, il faut que tu ailles en toi-même. Lech lecha, lech lecha. Maintenant, chez toi, tu vas trouver les questions et les réponses pour pouvoir assumer. Ça veut dire qu'une personne, elle rate son mazal parce qu'elle n'est pas devenue la personne qui est apte à. Donc, c'est pas qu'on te l'a fait rater, c'est pas qu'on te l'a volé, c'est pas que ta copine, elle t'a pris ton chidour, c'est pas que l'autre, il t'a pris le magasin, il te l'a acheté avant toi, c'est pas que la banque, elle t'a refusé parce qu'elle est antisémite, c'est pas. Non, y'a rien. Y'a rien. Tu dis, mais quand même, l'autre, il peut rentrer dans ma vie. Oui, s'il y a de la place. Si toi, tu n'es pas là, lui, il va être à ta place. Mais si toi, tu tiens ta place, tu as travaillé normalement, tu es une élève moyenne pour un programme moyen, pour un examen moyen, tu vas réussir. Tu dis, non. C'est parce que le prof, il m'aime pas. Et cette année spécialement, le BTS, il est dur. Mais le BTS, il est dur parce que toi, t'es molle. Comme dans la médecine. Dans la médecine, on dit que la gravité du virus dépend de la fragilité du terrain. Quand le terrain est fragile, le virus est fort. Quand le terrain est fort, le virus est léger. Il y a des gens, pendant 10 ans, ils portent une maladie, ils ont rien. Il y en a, au bout de 3 jours, virus fulgurant, il est mort. Pourquoi? Je ne comprends pas, il a le même poumon, il a le même système sanguin. Pourquoi il est mort en 3 jours? C'est la fragilité du terrain. Maintenant, toi, tu ne peux pas gérer le virus, mais tu peux gérer le terrain. C'est pour ça que je vous avais dit une deuxième phrase, que je vous répète à chaque cours. Normalement aussi, vous devez la connaître par cœur. Où sont mes fidèles? Le degré de pénétration. Ça fait plaisir. Elles connaissent même, quoi. Vous avez entendu ou non les nouvelles? Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si t'es pleine, ça rebondit. Si t'es vide, ça rentre. C'est comme tu veux. T'as qu'à te remplir. Tu dis, oh mais je pensais pas, je pensais qu'il était méchant. Il est méchant parce que t'es trop gentil. Mais il m'a menti. Il t'a menti parce que t'es nia. Les imbéciles attirent les malins. Maintenant, on se posera toujours la question. Est-ce que ce sont les imbéciles qui fabriquent les malins ou est-ce que ce sont les malins qui fabriquent les imbéciles? Mais comment j'ai pu me faire avoir? Parce que t'es une hamara. Tu dis, mais c'est trop facile. Alors vous m'insultez, vous venez en cours, vous m'insultez. Mais je t'insulte pas. C'est ta vie qui t'insulte. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je te connais pas. Je parle même pas de toi. Moi, je parle de tout le monde. Ah, tu te reconnais, c'est pas de ma faute. Par contre, le contraire, tu peux dire. Ah, si c'est comme ça? Eh ben tiens, je vais voir, je vais essayer le contraire. On va bien voir. Eh ben essaye le contraire. Essaye. Dis-lui que tu n'as plus besoin de lui, on va voir ce qu'il va dire. S'il dit, oh bah c'est comme ça, je vais aller voir ailleurs. Tu dis, mais. Et tout ce que tu m'as dit? Wallo. Je vous dis un truc grave. Quand vous ouvrez le frigo, la lumière, elle s'allume. Ouais? Le frigo n'y est pour rien. C'est pas une décision qui lui appartient. Il s'allume. Il y a des gens comme ça. Quand il ouvre, il s'allume. Quand tu leur fermes, il s'éteint. Tu m'as dit tout ça, c'est quoi? C'est rien, c'est un effet d'ambiance. C'est un effet de situation. C'est parce que t'es en manque. Alors ça te fait quelque chose. Le jour où t'en as plus besoin, ça te fait plus rien. Mais alors, objectivement, ça existe ou non? Parce que moi, qu'est-ce qu'elles me disent, les filles? Elles me disent, mais si le bon Dieu me l'a envoyé, s'il est là, devant moi, l'arbre aussi, il est là. Le trottoir aussi, il est là. Épouse le trottoir. Puisqu'il est là. Minashamaim. Le Yetzara aussi propose des choses. La lourdeur aussi, elle propose des choses. Ça ne veut pas dire. Même ton bestia, si Dieu veut, tu vas l'encadrer. Bon, mais ça va, tu ne vas pas en faire... Dans 3 ans, tu l'auras oublié. Tu auras du travail, tu auras une expérience, tu auras des enfants. Il y a des gens, non, ils font leur BTS et tous les jours, j'ai mon BTS. 10 ans après, tu sais que j'ai eu mon BTS, tiens, j'ai gardé les notes, tu sais que c'est mon BTS, hein, j'ai eu du premier coup, puis je suis très fier, puis tous les ans, bah, je me mets devant, puis je fais une cérémonie. Je mets des fleurs, et puis j'y repense, et puis j'essaie de revivre les événements, j'ai une vidéo, c'est mon BTS. Non, mais c'est une étape, hein, faut passer à autre chose. Non, mais c'est mon BTS. J'y tiens beaucoup, et pour moi, la vie s'est arrêtée. Le lendemain du BTS, bah, je me suis dit, bon, bah, je peux mourir, j'ai fait ce que j'ai à faire. Bon, j'exagère. Mais il y en a qui te sortent des cahiers de CE2. Ils vont le faire, moi. Regardez mon cahier de CE2, magnifique. Vous avez eu votre bac? Non. Le permis? Non. Voilà, la fac? Non. Mais le CE2, regardez. C'est pas un cahier magnifique. Je leur dis à mes enfants, mais regardez ce cahier. C'est un cahier magnifique, CE2. Je dis, enfin, madame, après le CE2, il s'est passé des choses. Vous avez quand même 34 ans. 4 enfants, il y en a eu des. Non. Moi, je suis très fier de mon CE2. Et je m'y accroche. Vous comprenez cette logique-là? C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'avenir, il est devant. Alors, je te dis encore une fois. Comment on va vers son avenir? J'ai fini. Comment on va vers son avenir? Ouais. Alors, crois. Va au bout de tes choix. Traverse le monde. Fais la traversée de l'Atlantique, traverse le désert en marche arrière, en VTT. Non. Lech lecha. Tu vas vers toi, tu te cherches à toi. T'as des problèmes, ipashpesh bemarasav. T'as des bonheurs, vas-y, prends de l'énergie. Pense à toi, pense à t'épanouir, pense à grandir. J'ai fini, 2 minutes. Ils sont graves. Le Satan, il a déjà donné, c'est bien. On va dire les caves de route. 1h20 déjà de concentration. C'est magnifique. Donc ici, Rabotai, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avraham Avinu, l'Ech Lecha, on a dit le Avraham Avinu, il est en bas sur la terre. Mais il y a un autre Avraham Avinu qui est inscrit dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a, vous a dit, je vous ai demandé tout à l'heure, mais quel rapport il existe entre la création du monde et Avraham Avinu? Comment on peut dire que toute la création du monde, le but, c'était Avraham Be'ibar Am Hashem Elohim, ouais? Beibarham, la Gemara dit, Altikre Beibarham et la Beabraham. On a dit, pourquoi il y a eu 10 épreuves pour Abraham et il y a eu 10 paroles pour créer le monde? Mais comment est-ce que tu compares la création du monde avec 1 milliard de milliards de trilliards de données et la vie d'un individu, dans le monde? C'est qui Abraham dans le monde? Et Rabotai, regardez, rien que c'est marqué dans la Torah. Ve'esecha, ve'agadelecha shemecha, ve'agadelecha shemecha. Hachem, il a dit, je grandirai ton nom. Mais rien que ça, j'ai expliqué à mes enfants, mes enfants de 8 ans, ouais, ils m'écoutent, à 8 ans, à 38, à 18, ils m'écoutent, à 8 ans. J'ai dit à mon fils, regarde mon fils, aujourd'hui tu sors dans la rue, t'attrapes un goy, n'importe lequel, tu lui dis, tu connais Abraham? Il dit, bien sûr, Abraham de la Bible, bien sûr, il est connu. Tu dis, tu sais qui c'est le Dieu d'Abraham? Il dit, bien sûr. C'est-à-dire que Rashi, il y a 1000 ans, il a dit que ce qui est écrit dans la Torah, je grandirai ton nom, ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, on saura qui c'est Elohim Abraham. Tu prends un goy jeté là-bas, ouais. Tu prends un Vietnamien, tu prends un Congolais, tu prends un Français, tu lui demandes, qui c'est Abraham? Il sait. C'est-à-dire, le nom d'Abraham, il est arrivé jusque-là. 3000 ans. Il y a des gens, 10 minutes après leur enterrement, tu dis, tiens, t'es au courant qu'il est mort? Il dit, qui ça? Mais c'est ton voisin. Attends, j'arrive pas à mettre un visage. Pourquoi il y a des gens, 10 minutes après leur mort, même de leur vivant déjà, on se rappelle pas d'eux, et il y en a, leur nom, il continue 3000 ans après? C'est ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que l'essentiel de quelqu'un, c'est intemporel. Maintenant, quand quelqu'un il a touché son intemporel, et quand quelqu'un il a exprimé son intemporel, il devient intemporel. Mais quand quelqu'un il a pensé à ses petits besoins, dans sa petite vie, de son petit studio, de son petit projet, de son petit couple, de son petit frigo, de son petit estomac, eh ben, quand il est comme une ampoule. Et l'ampoule, quand elle est claquée, elle est claquée. C'est une ampoule qui a claqué. Ça fait de la peine, mais ça reste une ampoule. Essayez de remplacer une ampoule qui est claquée. C'est impossible. Maintenant, Dieu, il a comparé les Bnei Israël à des étoiles ou à des ampoules? C'est pas marqué dans la Torah? Ouais? Tes descendants, ils seront comme des ampoules. Hein? Basse tension, bien sûr, attention. Comme des étoiles. Quelle différence entre une étoile et une ampoule? Une étoile, une ampoule, quand elle meurt, il n'y a plus de lumière. Une étoile, quand elle meurt, la lumière, elle continue. Beaucoup plus. Tu as compris cette logique? Donc toi, dans ta vie, tu veux être quoi, toi? Une étoile ou une ampoule? Si tu penses à ta petitesse, tu veux être une ampoule. Petit kiff, petite vie, petit projet, petit amour. Ouais. Si tu vois grand, ouais. Si tu vois grand, tu peux avoir 100 milliards d'euros. Pourquoi tu veux avoir 10 000 euros? Tu sais, c'est pas évident. Mais dans 100 milliards, il y a 10 000. Dans 100 milliards, il y a 10 000. D'accord? Tu as 3 enfants, tu dis, oh, comment je vais faire le troisième? Je vais tomber en dépression. Mais ta mère, elle en a eu 9. Elle n'est pas devenue folle. Mais comment je vais supporter mon mari pendant 40 ans? Eh ben, est-ce que tu l'aimes d'abord? Bah oui. Est-ce que tu veux l'aimer encore plus? Bah oui. Est-ce que tu vas te donner les moyens de l'aimer plus? Oui. Alors, n'aie pas peur. C'est logique. Ça veut dire que quand la Torah, elle a dit Lech Lecha, elle a dit Avraham Avinu, va vers le Avraham qui est dans le ciel. Pour ça, les étapes, elles sont fixées. Maintenant, pourquoi est-ce que tu vas te passer d'une étape à l'autre? Simplement parce que tu t'es engagé. C'est-à-dire que la force d'Avraham Avinu, c'est l'engagement. Il s'est engagé, il croit, à 3 ans, il a compris que Dieu existait, il s'est engagé. On lui a proposé de mourir ou de croire, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Il s'est battu avec son père, il s'est battu avec sa génération, ouais. Il s'est battu avec la bêtise. Vous vous rendez compte que quand il est rentré dans la fournaise ardente, il n'avait aucune preuve que Dieu existait, concrète. Dieu ne lui avait pas parlé, vous êtes au courant, ouais. Ça va ou non? Alors si lui, il était prêt à rentrer dans une fournaise ardente, plutôt que de remettre en cause sa croyance qui était basée sur rien. Ouais. Alors comment tu fais toi pour rentrer dans une boîte de nuit? Sous prétexte que ça va chauffer. Et après tu dis, j'ai passé une nuit d'enfer. C'est un avant-goût. D'accord. Donc la personne, elle doit savoir. Si tu penses que tu es une bâtisse réelle, qu'est-ce que tu fous dans cette boîte de nuit? Tu dis, mais je suis pas vraiment Avinu. D'accord, t'inquiète Sarah. En français, on appelle ça la cohérence. Maintenant, tu as une épreuve de 18 ans pour une fille de 18 ans. Tu dis, mais c'est dur. C'est comme tu veux. Il y a les épreuves de 30 ans. Le voisin, très gentil. Il y a les épreuves de 40 ans. Il y a les épreuves de 50 ans. Il y a les épreuves de 60 ans. La ménopause. Il y a des épreuves. Toute la vie, il y a des épreuves. Tu t'es prêt à passer ou non? C'est des épreuves. Maintenant, moi, je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la question à 20 ans, c'est, la réponse à 20 ans, c'est la même. C'est que les questions, elles changent. Mais la réponse est toujours la même. C'est l'Ech Lecha. L'Ech Lecha. Et le L'Ech Lecha de va vers toi, c'est-à-dire devient la personne que tu dois être, oui, elle répond aussi au L'Ech Lecha va pour toi. Parce que celui qui va vers lui, en fin de compte, il va pour lui. Puisque les marches d'escalier pour arriver à soi, c'est le profit, les moyens que tu te donnes pour y arriver. Donc le Lech Lecha va pour toi, c'est le même que le Lech Lecha va vers toi. C'est bon? Et tout ça dans quoi? Dans 2 mots. Lech Lecha. C'est clair pour vous? Bon. Il y a une seule réponse que je n'ai pas trouvée, c'est pourquoi Lech et Lecha, c'est féminin et masculin. J'ai pas trouvé. Moi non plus. J'ai pas trouvé. C'est pas grave, comme ça, peut-être ça donnera une raison de venir l'année prochaine. Alors, bonne continuation. Je vais juste vous demander, parce que j'ai besoin de vous, parce qu'il y a une dame qui est très malade. J'ai promis que dans les cours, j'allais demander à Réfoua Chalima pour elle. 2 minutes, j'allume le portable, après, je vous laisse tranquille pendant 4 semaines. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit? En tout cas, Khazakoubao, vous avez quand même tenu plus d'une heure et demie. Je suis vraiment touché de votre attention. Et moi-même, je suis touché que je ne me suis pas énervé. C'est pas grave, voilà entre nous.